Ouais, c'est bon.
C'est bon. Bon, alors on va commencer. Bonsoir. Tout d'abord, nous voulions remercier donc Nicolas Hotelstaff d'avoir accepté notre invitation à parler à notre séminaire Jean Lacanien, historiser, raconter et écrire l'histoire. Nous avions déjà accueilli un historien, Alain Corbin, au mois de janvier, et donc nous accueillons un autre historien, mais différent, on va dire, voilà, pour nous parler sur le titre « Les bribes et le récit, comment les historiens racontent les histoires ». Donc je vais juste faire une petite présentation très rapide et ensuite passer la parole. Nicolas Hoffenstadt est donc historien, agrégé et docteur en histoire, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, maître de conférences à la Sorbonne, mais actuellement détaché donc en Allemagne, à Berlin, enfin à côté de Berlin, une petite ville,
Francfort-sur-l'Oder.
Francfort-sur-l'Oder, voilà, dans l'ex-RBA. Ces périodes historiques de prédilection étant l'histoire du Moyen-Âge et la Première Guerre mondiale, c'est en tant qu'historiographe que nous l'avons invité ce soir, puisque c'est pour nous parler un petit peu des outils théoriques et méthodologiques de l'historien, de comment l'histoire se construit pour l'historien, que nous avons trouvé intéressant de l'inviter. Voilà. Donc je passe la parole directement.
Oui, je vais parler debout si c'est pas... si ça casse pas trop le rituel.
Casser
le rituel. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis un peu ému de parler devant ce public, puisque j'ai deux publics habituels, les étudiants qui sont contraints et les passionnés d'histoire qui sont admiratifs, donc qui ne me posent ni l'un ni l'autre aucun problème, normalement. Et donc là, je suis évidemment devant un public avec qui je n'ai pas l'habitude de discuter. C'est pour ça que ça m'intéresse d'autant plus, mais je suis évidemment du coup plus tendu, n'ayant pas toutes les clés ni toutes les ficelles de ces publics habituels. Donc merci beaucoup de cette invitation et de cette possibilité de confrontation. Alors en fait, j'ai un peu changé l'orientation de l'exposé, parce que dans ce que me demandait Claire ou dans la discussion qu'on avait eue, il y avait trois termes qui apparaissaient, en tous les cas, qui semblaient l'intéresser par rapport à... aux échanges qu'on peut avoir, je vais regarder l'heure, pardon, pour ne pas être trop loquace, et qui était toujours autour de trois notions principales. Qu'est-ce que c'est que la vérité pour un historien, sur quelle trace il travaille et quelle interprétation il peut proposer. Alors ça fait beaucoup. Donc j'ai décidé de centrer mon exposé sur qu'est-ce que la vérité pour un historien, et évidemment comment est-ce qu'il y accède, si tant est qu'il puisse la définir. Ce qui évidemment nous amènera évidemment aussi à parler de traces et de bribes, bien entendu, mais j'ai trouvé que ce fil directeur, finalement, nous permettait de réfléchir aux questions que vous posez à l'historien, et encore une fois, en partant de ma discipline et de ce qu'elle est. Alors, évidemment, la vérité, c'est une question centrale chez l'historien, parce que c'est une question de définition identitaire pour lui, puisqu'il est le producteur de la vérité sur le passé. Et donc, depuis que l'histoire est une discipline académique et normée, c'est-à-dire en gros la fin du 19e siècle, il y a un modèle fondateur que l'historien dit la vérité. Il dit la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement trois choses. C'est que, d'une part, pour dire la vérité, il fait abstraction de sa personne. Donc quand il travaille et quand il écrit, il n'existe pas en tant que personne. Donc en quelque sorte, il serait dual, il serait un homme privé et il serait l'historien, qui n'aurait pas de rapport au présent, autre que le travail qu'il accomplit lorsqu'il est historien. Donc il doit faire abstraction de sa personne, c'est le premier élément du modèle, pour dire une forme de vérité nue. Ça, c'est le modèle évidemment idéal. Deuxièmement, l'historien doit être soumis à aucun maître. Il faut être libre pour écrire l'histoire, et donc du coup, on ne doit jamais écrire l'histoire sur une commande trop précise d'un maître trop présent. C'est donc le deuxième élément de la définition de la vérité historienne, être libre pour produire la vérité. Troisième élément de cette définition traditionnelle de l'historien dans son rapport à la vérité, il doit évidemment faire correspondre ce qu'il lit et ce qu'il dit, donc dire les choses comme elles se sont vraiment passées, sans déformation. Hein, et donc, c'est un historien allemand qui l'a formulé, hein, Leopold von Ranke, les choses telles qu'elles se sont vraiment passées. C'est une expression que reprennent toujours les historiens en français ou en allemand. Je vous passe l'expression allemande, mais ça veut dire la même chose, hein, les choses telles qu'elles se sont passées. Comme si donc cette expression en soi garantissait la vérité de l'historien. Et donc, il y aurait une correspondance toujours entre ce que l'historien dit et les choses telles qu'elles étaient. Donc, voilà globalement le fondement du métier, hein, défini rapidement, hein, d'un historien dès la fin du XIXe siècle. Hein. Il dit la vérité parce qu'il fait abstraction de sa personne, il dit la vérité parce qu'il est libre, et il dit la vérité parce qu'il s'attache toujours à faire correspondre ce qu'il trouve dans les documents et ce qu'il l'écrit. Vous comprenez bien, d'après ma présentation, que, évidemment, ça ne peut pas tenir la route, hein, comme définition, pour de nombreuses raisons, et ça ne tient plus la route du tout, aujourd'hui, parce que, évidemment, cette définition de la vérité a été attaquée, elle a pris l'eau de toutes parts, pour de nombreuses raisons, et elle a pris l'eau de toutes parts, on pourrait dire, à partir, en particulier des années 70, hein, bon, et c'est là, évidemment... Évidemment, on se retrouve, hein, tout ce bouillonnement intellectuel, hein, où toutes les sciences sociales et humaines discutent et évidemment remettent en question les certitudes de leurs prédécesseurs. Et donc les grandes offensives, hein, relativistes ou critiques des années 70 ont évidemment touché l'histoire de plein fouet, et notamment cette définition de la vérité. Un de ceux qui lui apportait peut-être les coups les plus forts, parce que c'était un historien du Sérail, un historien de l'Antiquité, vous le connaissez sans doute, c'est Paul Venn. Hein, qui dans tous ses travaux des années 70-80 a remis en cause fondamentalement ses certitudes en disant que l'histoire, bien sûr, cherchait la vérité, mais qu'elle était aussi une fiction, qu'elle était, pour reprendre son expression, un roman vrai, on va y revenir, et donc que la vérité est toujours extrêmement relative. Hein. Il dira cette chose assez forte dans un livre publié en 1983, « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» La vérité est le nom que nous donnons à nos options. Donc là, évidemment, on passe très très loin de la définition de cet historien distancié absolu. La vérité est le nom que nous donnons à nos options. Et donc, explique Paul Venn dans ce livre, il n'y a de vrai qu'à l'intérieur d'un programme. Il n'y a de vrai qu'à l'intérieur d'un programme. Ce qui, évidemment, rend impensable de garder la définition ternaire que je vous ai donnée. Il n'y a de vrai qu'à l'intérieur d'un programme, qu'a défini donc l'historien par rapport à la période dans laquelle il vit. Donc, on a là un basculement colossal, hein, pour la discipline dans ces années 70-80, hein, c'est que, finalement, le vrai, on ne sait plus trop où il est. Le vrai perd de sa consistance, la vérité perd de sa consistance, et donc, du coup, les historiens vont être très troublés, et il y a eu énormément de travaux et de discussions à partir des années 70-80 sur, finalement, où retrouver une vérité de l'histoire, quels sont les récits qui sont acceptables, quels sont ceux qui ne le sont pas, qu'est-ce que c'est qu'un roman vrai, quel est notre rapport à la fiction. Hein, donc tout, en quelque sorte, a vacillé des croyances antérieures dans ces années 70-80, et d'une certaine manière, on n'est pas vraiment sorti, hein, de ce paradigme mis en place à l'époque, hein, et de ces critiques, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et donc la question qui se pose donc, face aux traces, face aux documents, c'est comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut sauver ? C'est vous, je crois, qui avez employé l'expression. Elle vous dit finalement qu'est-ce qu'on peut quand même attraper de la vérité si tout est relatif, tout est récit, tout est fiction. Hein, et donc je vais essayer d'en discuter avec vous. Alors j'ai fait trois parties. Vous avez dit que j'avais fait Sciences Po, donc il faut que je le justifie. Donc dans une première partie, je vais essayer de voir finalement quels sont les obstacles contemporains qu'on peut retenir comme de véritables obstacles à la vérité. J'essaierai de vous montrer ensuite dans une deuxième partie pourquoi ça reste quand même un enjeu, même si la notion peut paraître datée et un peu fatigué. En réalité, c'est quand même un certain nombre. Il y a quand même un certain nombre d'enjeux pour l'historien. Et j'essaierai positivement dans une troisième partie de dire, évidemment, non pas au singulier comme dans la définition initiale, mais au pluriel, quelles sont les vérités qu'on peut sauver, hein, dans un travail d'historien à partir de ces sources et de ces documents. Donc première partie, finalement, pourquoi est-ce qu'on peut accepter l'idée défendue par Paul Venn et bien d'autres que la vérité a vacillé? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, cette notion, elle rencontre un certain nombre d'obstacles que je vais peut-être lister, qui nous permettra un peu, du coup, de travailler en même temps sur le métier de l'historien. Donc, quels sont les obstacles, finalement, à la possibilité qu'on a de dire la vérité sur le passé? On peut en trouver quatre principaux. Le premier, évidemment, on pourrait dire que c'est un obstacle de méthode, et peut-être que là, on retrouvera des choses qui vous intéresseront en plus particulier, c'est évidemment l'opacité du passé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vérité? Parce que elle n'est pas disponible d'emblée dans le passé. Il y a une opacité très forte. Une opacité qui est double pour l'historien. L'opacité parce que d'abord, il y a des documents qui sont absents. Il y a des documents qui sont très postérieurs à ce dont ils parlent. Ce n'est pas trop le lien qu'ils entretiennent avec ce dont ils parlent. Et troisième élément d'opacité, c'est qu'évidemment, les mots sont situés dans une époque et ils sont remplis de pièges, ils sont piégeux. Et donc, évidemment, on arrive avec cette question de méthode sur l'opacité très forte du passé. Pour prendre un exemple concret, hein, les historiens sont empiriques, le baptême de Clovis, c'est quelque chose, finalement, donc, c'est très peu de choses. C'est très peu de choses. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun document contemporain. Les documents qu'on a sont postérieurs. Ils sont postérieurs et ils sont inscrits dans des contextes très différents, avec des enjeux très différents. Autrement dit, du baptême de Clovis, dont tout le monde fait un fondement hein, de l'identité, on sait quasiment rien. On ne sait même pas à quoi Clovis s'est converti et de quoi il est parti, si on veut être véritablement honnête. Quant à la date, elle change tous les ans, selon les... Chaque fois que j'enseigne le baptême de Clovis, j'écris aux spécialistes en disant « Vous en êtes où ?» et « Quelle est la dernière date qu'il faut donner aux étudiants ?» Hein, donc j'ai dû enseigner chaque année des dates différentes. Hein, c'est quand même une ampleur quand même de plusieurs années. Hein, c'est pas juste des questions de jours. Hein, donc Clovis a été baptisé dans une fourchette assez ample de 10 ans environ. Donc vous voyez, donc, même du point de vue méthodologique, hein, pour prendre cet exemple, donc on n'a pas de documents parfois. Ces documents sont très difficiles à interpréter parce qu'ils sont inscrits dans des contextes qui ne sont pas ceux de l'événement dont ils parlent. Et ils sont inscrits avec des mots dont on n'est pas toujours sûr de bien comprendre ce qu'ils veulent dire, hein, parce que c'est cette opacité des mots, c'est très fort, et donc ça rend parfois des documents totalement incompréhensibles. Hein. Il y en a un document, par exemple, qui dit, en parlant d'un esclave, il dit « Il faudra lui rendre telle taxe, cet esclave, qu'il soit libre ou esclave. » Alors un esclave qui est libre ou esclave, c'est très compliqué à interpréter. Parce qu'on nous dit qu'il est esclave, mais on nous dit qu'il est libre ou esclave. Donc qu'est-ce que vous faites avec ça, en termes de mots ? Hein, on a des choses qui évidemment, devaient sans doute dire quelque chose aux gens qui l'ont écrit. Ce n'est pas une erreur de copiste, hein, mais c'est du point de vue interprétatif pour un historien. Hein, comment trouver le statut de quelqu'un dont on nous dit qu'il est esclave, mais qu'il sera à juger comme un libre ou un esclave ? Il n'y a pas d'interprétation, et on ne peut rien faire, évidemment. Hein, on n'a pas d'instrument. Donc cette opacité du passé, c'est le premier élément tout simple hein, d'obstacle à la vérité, hein, on n'a parfois ni les documents, ni le rapport entre les documents et la réalité, ni parfois les mots qui nous permettent d'être sûrs de ce dont on parle. Hein, et c'est évidemment des choses sur lesquelles les historiens discutent en permanence. Donc c'est quand même malgré tout un obstacle pour raconter quelque chose qui tient la route et qui ait une certaine consistance. Deuxième obstacle, évidemment, qui est lié, on pourrait dire, c'est... qui a été mis en avant par ce débat des années 70-80, c'est, on pourrait dire, le relativisme des narrations concurrentes. En effet, quand on a finalement 50 récits d'un même événement, après tout, pourquoi faudrait-il et comment faire pour les faire coïncider ? D'abord, premièrement, faut-il les faire coïncider ? Et deuxièmement, comment les faire coïncider, hein, quand après tout, ces narrations ont toutes leur valeur intrinsèque, hein ? Et donc certains historiens, d'ailleurs... Hein, comme l'italien Arsenio Frigoni a décidé du coup d'écrire une histoire mosaïque. Il a écrit l'histoire d'un révolutionnaire, on peut dire, du XIIe siècle qui s'appelle Arnaud de Brescia. Et cet Arnaud de Brescia, on le voit émerger dans différentes sources, donc des sources italiennes locales, des sources impériales, hein, puisqu'à l'époque l'Italie du Nord est sous domination impériale. Et donc, au lieu de raconter Arnaud de Brescia en disant « Ben voilà, j'ai lu toutes les sources, voilà le portrait que je vous dresse de ce personnage assez intéressant, hein, parce que c'était quand même une forme de révolutionnaire social avant la lettre », il va écrire une histoire mosaïque, c'est qu'à dire qu'en fait, il va analyser chaque récit pour lui-même. Hein, c'est un livre qui est publié dans les années 50, donc c'était assez pionnier en italien, ensuite il a été traduit en français. Et donc, en fait, il ne nous dit pas qui est Arnaud de Brescia, comment Arnaud de Brescia, finalement, en croisant les différentes sources, mais il nous dit finalement, voilà comment Arnaud de Brescia est présenté dans chacune des sources. Donc, il construit son récit, hein, non pas pour refaire une biographie, mais dans une histoire mosaïque, en disant finalement, il y a des narrations concurrentes, et on va regarder ce que chacune de ces narrations vaut en tant que telle. Et donc son livre, c'est chapitre par chapitre, il va étudier les différentes sources dont il dispose, donc la chronique de Brescia, évidemment, la chronique locale, ensuite la chronique de Tont Freising, qui est une très grande chronique impériale, et d'autres encore, hein, la vision des cisterciens qui, eux, représentaient l'ordre quand Arnaud de Brescia était le désordre. Hein, et donc du coup, finalement, son choix de narration, hein, face à ce relativisme, c'est de dire, bah oui, prenons le relativisme au sérieux, Hein, et regardons finalement chaque narration et voyons comment on peut l'analyser en tant que telle. Et donc du coup, il n'y a pas de moment où Frugoni va dire, ben voilà, maintenant j'ai analysé toutes les narrations concurrentes, je vais vous donner la bonne, je vais vous donner la version qui est la meilleure. Il dit, chaque version apporte quelque chose, il faut la comprendre dans son temps, donc ça change complètement évidemment le rapport au récit, mais c'est aussi accepter évidemment que le rapport à la vérité, il est évidemment plus distant, plus lointain, puisqu'on n'essaye pas d'en donner une, on montre comment elle se construit par des narrations concurrentes. Cette idée de forcer des récits à coïncider, c'est quelque chose qu'un certain nombre d'historiens, maintenant, ont peut-être un peu de réticence à proposer. Et du coup, il y a aussi, ça rejoint l'autre aspect de la question de l'écriture de l'histoire, l'autre possibilité, et qui a été étudiée parfois par des historiens, c'est de dire finalement, quand je ne sais pas quoi faire de ces narrations concurrentes, je vais les donner de manière brute, de manière à composer là aussi une forme de mosaïque, mais cette fois non pas d'historien, mais de texte. C'est le choix qu'ont fait deux auteurs que vous connaissez peut-être, Dominique Khalifa et Philippe Artière, en tous les cas le second, parce qu'il a touché peut-être des champs qui vous sont plus proches. Ils ont fait comme ça l'histoire d'un criminel, d'un tueur de femmes, qui s'appelait Vidal au début du siècle, peu importe l'histoire de Vidal. Mais sans vouloir raconter l'histoire de Vidal, comme ils ont en fait fait se succéder dans leur livre les différents documents qui en parlent. Et eux, ils sont là finalement juste comme des metteurs en scène de documents. Donc vous allez avoir par exemple une expertise médicale, ensuite un journal de presse, ensuite une partie du procès de Vidal, puisqu'il a évidemment été condamné. Et donc en fait la seule intervention de l'historien ici face à ces narrations, c'est pas encore une fois de les faire coïncider, c'est juste de les faire se succéder. Et donc toute l'intelligence du récit, dans ce cas-là, c'est la composition. En disant, finalement, donc on ne va pas dire que si le médecin était un salaud, voulait charger Vidal ou pas, si le juge a bien vu les choses ou pas, on va simplement les aligner dans une certaine manière. Donc, et donc là, évidemment, la qualité du récit va tenir à l'intelligence, au sens fort du mot de l'historien, à composer son récit. Mais du coup, c'est aussi une forme, on peut dire, de relativisme face à la notion de vérité telle qu'elle était entendue dans la définition que je vous ai donnée. Et évidemment, on ne peut plus écrire l'histoire avec ce type de rapport aux sources comme on le faisait auparavant. Troisième obstacle, on peut dire, à la vérité traditionnelle des historiens, évidemment, et ça c'est le produit là aussi des années 70-80, c'est que, bon, c'est une évidence, mais elle est importante parce que dans le discours des historiens, elle est forte, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de récit sans pouvoir. Et donc tout ce qu'on va faire, finalement, sera empêtré. Dans des rapports de pouvoir, c'est tout l'effet de Foucault sur les historiens. Et donc évidemment, les récits sont déterminés par des rapports de pouvoir, explicites ou implicites. Et pour l'historien, ça peut être très facilement montré, de dire que tant qu'il y avait des bourgeois à l'université, on n'a pas écrit l'histoire des classes populaires, donc si on voulait le démontrer simplement. Et donc tant que c'était des universitaires du 19e siècle qui étaient tous issus des classes dominantes, personne ou très peu de gens passaient du temps à étudier les sources populaires. Et donc, du coup, évidemment, et quand l'université s'est démocratisée, c'est là, évidemment, qu'un pouvoir changeant aussi à l'université, on a commencé à s'intéresser à d'autres types d'histoires. Là où c'est encore le plus évident, évidemment, c'est pour l'histoire des femmes. Personne n'écrivait l'histoire des femmes, ou en tous les cas, pas de la même manière, tant que les femmes n'étaient pas à l'université. Donc, l'histoire, c'est toujours ceux qui ont le pouvoir qui l'écrivent, sont les hommes. Donc, on a eu une histoire masculine, une histoire hémiplégique, pendant des siècles. On a eu une histoire qui était souvent celle des rois et des batailles, pas seulement parce qu'on aimait les prouesses, mais parce qu'on racontait l'histoire de gens avec qui on pouvait se trouver finalement en affinité, donc des dominants. Et donc du coup, tout ça ayant été beaucoup démonté dans les années là aussi 70-80, et l'œuvre de Foucault a été décisive, d'idée de dire que de toute façon, dans tous ces discours des historiens, tous ces discours de vérité sont tellement emprunts finalement de la question du pouvoir que, d'une certaine manière, ils n'atteignent que la vérité qui est celle de leur inscription dans ces rapports de force, ces exemples des femmes ou des classes populaires étant les plus évidents et les plus simples, mais évidemment c'est parfois beaucoup plus subtil. Et donc du coup, en quelque sorte, à partir du moment où on voit du pouvoir partout, ce qui n'est pas forcément faux, il n'y a plus beaucoup de vérité qui puisse faire abstraction du coup de cette inscription du pouvoir dans les récits et dans les récits des historiens. Quatrième et dernier obstacle, je suis un peu typologique, mais pour discuter, c'est mieux, c'est qu'en fait, et là, c'est le coin qui a été aussi enfoncé dans la définition idéale de la vérité, c'est que finalement, l'histoire est fondamentalement un récit. Et donc, que ses prétentions scientifiques et ses prétentions à dire le vrai sont en quelque sorte usurpées. Vous le savez peut-être, c'est un courant américain, mais pas seulement, qu'on a appelé le tournant linguistique, le linguistic turn, hein, qui finalement allouait à l'histoire aucune capacité scientifique par rapport à la fiction. Hein, donc le régime de vérité de l'histoire ne serait pas supérieur à la fiction. Hein, c'est seulement l'illusion des historiens qui le donnerait. Donc l'histoire serait un genre littéraire comme un autre, et donc c'est la critique textuelle qui permettrait de l'appréhender. Et en ce sens, il n'y aurait pas de différence fondamentale entre les ouvrages des historiens et ceux de la fiction, contrairement à ce qu'ils disent. Et donc l'histoire serait avant tout rhétorique, elle aurait une nature profondément rhétorique. Dès lors, finalement, le seul truc intéressant, ce serait même de lire le discours des historiens comme une fiction, et de l'étudier comme tel, et même pas de chercher le rapport à la vérité que ces historiens prétendent donner. Donc ce qui est intéressant, c'est en quelque sorte sur un double regard. Hein. Les textes du passé ne sont que fiction eux-mêmes, et ce que dit l'historien n'est que fiction. Donc on a une double fiction, donc la vérité là-dedans, évidemment, n'a plus un grand rôle. Donc ce que ferait le chercheur, ou celui qui s'intéresse au passé, ce serait dès lors de disséquer les sources, non pas comme des finalement ressources pour atteindre la vérité, mais comme des textes, comme une ressource textuelle. Donc en quelque sorte, on irait... chercher des documents pour comprendre leur procédé d'écriture, leur procédé d'énonciation, et disent les tenants les plus radicaux de linguistique terme, procédé d'énonciation qui n'ont même aucun rapport avec la réalité du passé. Hein, donc c'est du texte, c'est du pur texte, et donc en ce sens, il n'y aurait aucun espoir, et ce serait une prétention vaine que de chercher derrière des textes quelque chose qui puisse dire qu'il y a une réalité. Autrement dit, la conclusion, un certain nombre de philosophes comme Gadamer, par certains côtés, ou de littéraires comme Aidan White, c'est de dire finalement l'histoire n'a pas de régime de vérité supérieur à celui de la fiction, et d'une certaine manière, ce qui est encore plus gênant peut-être pour les historiens, c'est qu'elle n'a pas donc d'effet de connaissance qui lui soit propre. Finalement, si elle est un texte, un double texte, le texte des gens du passé, les textes des historiens, finalement, l'effet de connaissance, il n'est pas beaucoup plus fort hein, qu'un bon roman ou que toute autre forme de texte. Alors, on pourrait... s'arrêter là en disant, ben voilà, la question est traitée, l'historien ne peut pas grand-chose, hein, il est pris dans du pouvoir, des textes, des mots, des sources qu'il ne comprend pas, et donc finalement, il y a beaucoup de prétentions pour pas grand-chose. Alors évidemment, ce serait un peu court de s'arrêter à ces quatre obstacles, mais je pense qu'en même temps, ce sont des critiques qui sont sérieuses, hein, au sens où c'est pas rhétorique que de les mettre les unes à la suite des autres, hein, c'est des vraies questions de méthode que de répondre à tout ça. Et c'est ce que je voudrais doucement entamer dans une deuxième partie. Pourquoi il faut malgré tout résister hein, à ces critiques, et pourquoi quand même les enjeux de vérité sont importants, et pourquoi le monde n'est pas complètement abandonné, même si on ne va plus le garder ou le penser, comme je le disais en introduction. Alors quels sont finalement les enjeux malgré tout de la vérité? Premier enjeu, ou peut-être on peut déplacer le problème, c'est de dire, bon, la vérité, on a abandonné, hein, les critiques sont fortes, de dire finalement, l'historien, c'est peut-être pas la vérité qu'il qualifie, que l'objectivité. Alors, vous allez me dire, c'est des jeux de mots, mais pas tant que ça. L'idée, c'est que finalement, il y aurait une objectivité, et que l'objectivité ne serait pas un absolu, mais une tendance. Hein, donc déjà, on se détend un petit peu, hein, on n'est plus dans l'idéal du 19e siècle. Hein, on ne va pas dire la vérité du passé, mais on va avoir un comportement objectif, et on va... tendre au moins vers cette objectivité comme une limite mathématique. On sait bien qu'elle n'existe pas, qu'on ne l'atteindra pas, mais la courbe est toujours de se tourner vers cette limite mathématique qui est l'objectivité. Et ça a évidemment des conséquences, hein, puisque même si c'est un but qui n'existe pas, c'est un but tout de même. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en tenir à ces débats, même si on pourra ensuite les mener, hein, on peut revenir sur les quatre arguments que je vous ai donnés, ils ont du poids, ils sont importants. D'abord, et... c'est là où sans doute aussi on a peut-être un point commun, c'est qu'on n'est pas uniquement dans notre tour d'ivoire, c'est qu'on est dans des sociétés qui ont une demande de passé, et donc les demandes de passé sont fortes, et encore aujourd'hui, hein, vous savez le nombre de débats qu'il y a hein, sur les passés difficiles, sur les passés douloureux, et donc quand on a une demande du type « quel est le passé de mon ancêtre ?» hein, ou « pourquoi cet ancêtre a souffert ?» ou « comment il a souffert ?» ou « comment il a vécu ?» on ne peut pas se débarrasser de ces questions sociales, par la réponse méthodologique. Hein, il y a un hiatus entre une demande sociale et un débat méthodologique. Autrement dit, hein, quand on, c'est très simple, hein, vous l'avez bien vu avec un certain nombre de débats contemporains hein, qui ne cessent pas en France, mais pas seulement, hein, en Allemagne ou aux États-Unis. Hein, si on demande finalement c'était quoi être un esclave, on ne va pas dire je ne sais pas, je n'ai pas de texte d'esclave, puis les textes des planteurs, on ne peut pas y faire confiance parce qu'évidemment, etc. Hein, donc toutes les finalement limites méthodologiques que j'ai données, elles ne pourront pas répondre à la question. Donc on est bien obligé, socialement, hein, de passer outre ces débats méthodologiques pour répondre à la question. Quel est le passé de mon ancêtre esclave? C'est une réponse qu'on ne peut pas laisser c'est une question, pardon, qu'on ne peut pas laisser sans réponse. Et surtout quand il s'agit évidemment de passer de souffrance. Hein, où là, on a une responsabilité sociale, c'est un enjeu moral, c'est un enjeu social. Et donc, en ce sens où il faut bien dépasser nos apories méthodologiques pour répondre. Hein, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure d'une manière de répondre. Et puis, il y a eu un défi, évidemment, dans les années 80, qui a limité les débats, ou peut-être qui les a freinés, c'est le négationnisme. C'est-à-dire que si vous suivez un moment, si vous suivez tous les arguments que je vous ai donnés, après tout, hein, qu'est-ce qu'on répond aux négationnistes ? Et donc là, évidemment, à un moment, on s'est trouvé, je dirais qu'on a été arrêté net dans les débats que je vous donnais, parce qu'à un moment, il y avait un défi hein, qui les dépassait. Si vous dites que tout est texte, alors c'est-à-dire que le texte d'un survivant de la Shoah, c'est un texte. Hein, si vous dites que toutes les narrations se valent, c'est-à-dire que la narration du bourreau et la narration de la victime, elles se valent. Hein, et donc du coup, même si théoriquement, ça a du poids, encore une fois, je ne pense pas du tout que ces critiques sont faibles, hein, je pense qu'elles sont très fortes, mais on s'est retrouvé devant une vraie contradiction, c'est-à-dire qu'on avait des critiques méthodologiques extrêmement raffinées, hein, qui venaient de différents, et puis on s'est retrouvé face à ce défi-là. Et c'est évidemment, et donc là il y a eu une forme de chute hein, dans les débats, c'est qu'à un moment, c'était fini, hein, il fallait siffler la fin de la récréation, si on peut dire, parce que sinon ça voulait dire qu'effectivement, après tout, les narrations concurrentes, ben voilà, c'est ce que disent les négationnistes. Et oui, vous dites ça, mais moi je vous dis ça, alors qu'est-ce qui a plus de poids? Et qu'est-ce que vous répondez à ça? On va répondre, évidemment. Hein, mais on ne pouvait pas s'en tenir à cette question-là. Hein, on ne peut pas dire tout est texte, hein, tout est opaque. Parce que si tout est opaque, après tout, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les camps. Hein, donc, vous voyez, là, et donc il y a un certain nombre d'historiens, notamment Michel de Certeau, on en parlait tout à l'heure, hein, mais d'autres qui se sont dit, ben là, on est obligé hein, de reprendre la question. On ne peut plus s'en tenir à spéculer sur les quatre points que je vous ai donnés, parce qu'il y a une réponse. Et vous allez me dire, je prends l'exemple le plus dramatique, donc forcément je vais vous convaincre qu'il faut retourner, mais on peut prendre des exemples moins dramatiques, je voudrais en prendre un qui est assez intéressant, parce qu'il nous montre aussi que même sur des choses moins dramatiques, où on peut être moins peut-être motivé par la volonté morale de répondre, c'est la question de Jeanne d'Arc. Il y a tout un discours autour de Jeanne d'Arc, très contemporain, qui a un grand succès éditorial, hein, qui explique que les historiens n'ont rien compris, et en gros, sur trois points, d'abord Jeanne d'Arc n'est pas la fille d'un milieu modeste, hein, de Don Rémy, mais c'est la fille du roi ou de son frère. Hein, donc ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, Jeanne d'Arc, certains ajoutent, n'était pas une femme mais un homme. C'est pour ça qu'elle se combattait si bien. Et enfin, troisièmement, Jeanne d'Arc n'est pas morte sur le bûcher, mais elle a survécu, et il y a d'ailleurs des preuves. Et donc, on a un courant hein, donc de cet ordre-là, hein, qui a des grands succès. Hein, c'est notamment un journaliste de l'Est républicain qui a publié un livre là-dessus pour nous expliquer tout ça, qui est en livre de poche. Et donc, là, on a évidemment quand même une question, il y a deux récits. Hein. Soit Jeanne d'Arc est un homme, elle est née dans un milieu de roi de France et elle n'est pas morte sur le bûcher. Bon, il y a des variations sans fin. Hein. Et ça, c'est des histoires qui sont très, très répandues. Et donc, ça a un grand succès éditorial. Et donc, là aussi, c'est moins dramatique. Mais on est bien obligé de dire à un moment, elle est un homme ou une femme. Elle est morte ou elle n'est pas morte. Et donc, là, l'histoire. Et là, ce n'est pas une question morale, c'est une question d'histoire. Hein. Donc, comment on va répondre hein, et comment on va dire qu'il y a des récits concurrents qui ne sont pas concurrents? Parce qu'en réalité, non. Jeanne d'Arc est une femme, elle est née à Domremy de ces milieux-là, et elle est morte sur le bûcher. Et donc, il y a un moment, on ne peut pas accepter l'idée que ces récits se valent. Donc, vous voyez bien que ça ne suffit pas hein, d'argumenter. On doit à un moment trouver des manières de se retrouver avec la vérité et de lui redonner une consistance, même si on a entendu tout ce qui a été dit, parce qu'il y a des moments où les choses se posent de manière beaucoup plus tranchée et beaucoup moins méthodologique. Donc il y a cet enjeu moral, et je dirais qu'ensuite il y a un enjeu éthique aussi évidemment pour le métier de l'historien, c'est que retrouver une forme de vérité ou objectivité, ensuite on peut discuter comme vous voulez dans les mots, c'est différencier l'histoire du souvenir personnel. Si on dit que l'histoire comme discipline a une vertu, ça veut dire qu'elle n'est pas que le souvenir personnel. Sinon, après tout, hein, si elle n'a pas de vertu, si elle n'a pas d'effet de connaissance, les récits colportés sur le passé valent l'histoire. Hein, autrement dit, n'importe quel récit qui dit le passé, que ce soit celui de conteur, celui de récits familiaux, ben finalement, il n'y aurait pas de différence fondamentale. Et dans ce cas-là, on ne voit pas très bien ce qui justifierait de payer autant de gens à faire un métier qui ne se différencie pas tellement hein, de toutes les autres formes de transmission sur le passé. Donc il y a un enjeu éthique au sens d'éthique professionnelle hein, qui oblige évidemment à trouver ces différences. Et pourquoi ces différences sont importante. Hein. Et donc, évidemment, cette différence, je ne vais pas peut-être y insister, c'est moins l'objet ici, on pourra en rediscuter, c'est qu'évidemment, il y a un protocole hein, dans l'histoire qui n'est pas celui du souvenir personnel. Et ce protocole, évidemment, il implique tout un ensemble de méthodologies et une éthique à différentes phases. Hein. En gros, l'historien il travaille en trois phases, hein, vous le savez, mais je le rappelle. Et ces phases-là, elles sont définies professionnellement. Il y a la phase de recherche documentaire, il y a la phase interprétative ou explicative, et il y a la phase narrative. Hein, et donc chacune de ces phases étant contrôlée hein, et coordonnée par tout un ensemble de normes du métier. Donc trois phases qui justement amènent in fine à différencier le métier d'historien du souvenir personnel. Hein, et d'ailleurs, et c'est tous les apports de Ricoeur aussi dans ces discussions-là, l'interprétation n'est pas limitée à la phase interprétative. En fait. L'interprétation, elle est permanente dans le choix documentaire comme dans les choix narratifs. Hein, donc en ce sens, il ne s'agirait pas de la cantonner au moment explicatif central, hein, mais on est à tous les stades dans une phase interprétative, et c'est là la différence avec la mémoire ou avec le souvenir. Donc ce premier enjeu éthique, hein, c'est de se différencier méthodologiquement l'histoire du souvenir personnel, c'est aussi évidemment le rapport avec le lecteur. Il y a toujours un pacte, implicite ou explicite, avec le lecteur, parce qu'il y a une attente qui est le vrai. Hein, une attente qui est le vrai. Alors cette attente, évidemment, elle ne peut pas gouverner ni diriger l'ensemble de la recherche, mais l'idée que lorsque le lecteur lira l'historien, il trouvera une forme de vérité, et pas de la fiction, c'est quelque chose qu'on est dans l'obligation de respecter. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même des gens qui n'ont pas les contraintes de l'historien, hein, souvent arguent de la vérité historique comme un argument de justification de leur œuvre. C'est le cas, par exemple, de beaucoup de films de fiction, hein, qui traitent d'un personnage historique, hein, c'est toujours l'argument de la vérité. Hein. Dans ce film, vous verrez la vérité. Hein, comme si, quand même, c'était une forme de pacte implicite dès qu'on parle du passé. Hein, que c'est la vérité qui l'emporte sous d'autres formes d'interprétation. Et donc, en ce sens, on peut dire que le pacte et l'attente du lecteur fait partie de l'éthique du métier, hein, que justement, de se différencier de la fiction, c'est ce qui est attendu d'un historien. Alors vous allez me dire, tout ça est très général, oui et non, parce qu'en réalité, la vérité chez l'historien, c'est quand même quelque chose de très pratique, c'est, on pourrait dire, un terme qui n'est pas très joli, mais ça se définit par la vérifiabilité de ce qu'il raconte. Alors, c'est d'être vérifiable, c'est ça qui va définir au moins la vérité de l'historien. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être vérifiable, hein ? Et c'est quelque chose de très empirique, c'est toujours de référencer. Hein, de référencer, c'est fondamental. Vous savez qu'un des obsessions, peut-être le nœud du métier hein, quand on est historien, c'est la note de bas de page. Et la note de bas de page, hein, c'est ce qui constitue. Comme vous voyez un historien de métier, il ne va pas regarder le thème du livre, il va regarder les notes tout de suite. Hein, donc on ne regarde jamais un livre. Quand on ouvre un livre, quel qu'il soit, première chose qu'on regarde, c'est les notes. On ne regarde pas le titre, on ne regarde pas la table des matières, on ne regarde pas le sommaire, on ne regarde pas le contenu, on va voir les notes de bas de page. Pourquoi ? Parce que ça va nous dire tout de suite à quoi on a affaire, à quel type de vérifiabilité on va avoir affaire, à quel type de documentation on va avoir affaire, à quel type de travail on a affaire. Hein, je pense qu'à peu près 100% des historiens de métier commencent toujours la lecture par les notes. Hein, parce qu'ils disent sur quoi il a travaillé, comment je vais pouvoir vérifier ce que je vais lire. Hein, et donc du coup, c'est ça constitue évidemment... Hein, son rapport à la vérité, donc ça peut être évidemment sous différentes modalités, citation, référence, hein, etc., renvoi. Alors ensuite, il y a évidemment beaucoup de possibilités, mais son rapport à la vérité, à l'historien, in fine, il va se définir comme ça. Hein, peut-être pas tant, encore une fois, dans les résultats, que dans cette capacité à donner aux gens la vérifiabilité de ce qu'ils racontent, et donc de respecter en quelque sorte ce pacte. Et d'expérience, là aussi empirique, un livre excellent en histoire, mais sans aucune référence, je pense que ça troublera à peu près tous les historiens. On ne saura pas quoi en faire, même si ça paraît très intelligent, très bien fait. On va prendre ça comme un objet, vous voyez, on va patauger, hein, comme un gamin qui est un peu limite en termes d'eau, hein, il est dans une bassine, c'est un peu grand pour lui, il ne sait pas trop s'il va y aller, il se retourne, il met un pied, etc. Ben, on aura le même rapport avec un livre sans référence. On va dire, mais est-ce qu'elles existent quand même, ces références ? Ou alors il ne les a pas mis pour être plus lisibles. Hein, et donc ça va troubler parce que là, on n'est plus dans ce régime finalement de vérifiabilité qui constitue hein, cette éthique historienne que tout le monde partage. Hein. Et donc c'est depuis très longtemps cette idée que la note de bas de page, hein, y a toutes les, toutes les plaisanteries et les jeux sur ces notes de bas de page. Hein, et, c'était formulé. Voilà. Et j'avais été frappé, il y a même un chartiste du 19e siècle, pour vous dire comment c'était important dans la reformulation, il avait dit un livre avec les perceptions du genre et de l'époque, il avait dit un livre sans note de bas de page, c'est comme une jolie femme sans sourire. Vous voyez, donc ça va jusqu'à ce type de métaphore, hein, ou d'image. Hein, donc voilà le rapport intense. Hein, voilà. Donc c'est pour vous dire que c'était pas simplement... simplement vu sous le plan purement technique. Donc du coup, si la vérité est un enjeu éthique, c'est évidemment aussi un enjeu professionnel. Je vais passer plus vite, mais finalement, d'une certaine manière, qu'est-ce qui justifierait l'histoire comme discipline académique et comme manière de penser si elle ne produit pas un régime de vérité qui lui est propre, hein ? Autrement dit, s'il n'y aurait aucune justification s'il n'y a pas un régime de vérité qui est différent au moins de deux autres, qui est celui de la philosophie et celui de la fiction littéraire. Donc en ce sens, de ce point de vue-là, il n'y aurait pas d'exemple. Alors, je voudrais vous prendre un exemple peut-être qui relie ces trois enjeux. L'enjeu moral, la définition éthique du métier, l'enjeu professionnel. C'est un livre qui me paraît assez important et qui peut-être est en plus plein d'ambiguïté, mais qui à mon avis est un des plus beaux livres d'histoire contemporaine qu'on ait écrit et qui, je crois, nous très bien hein, ces enjeux aujourd'hui. C'est le livre qui est publié par Alain de Verpe en 2006 sur l'affaire de Charonne. Vous avez peut-être le souvenir de cette histoire, hein, de la manifestation pendant la guerre d'Algérie, hein, le 8 février 62, hein, où donc une manifestation qui était organisée contre les violences de l'OAS par la gauche et notamment par le Parti communiste et par la CGT. Hein, et au cours de cette manifestation, donc dans le quartier Charonne, hein, la police va tuer, elle va tuer 8 manifestants, puis un 9e mourra après, hein, et donc ça va susciter évidemment une immense émotion. Et c'est une affaire qui jusqu'à 2006, hein, donc 40 ans après, hein, est restée assez compliquée à démêler. Et donc Alain de Verpe, qui a écrit ce livre, hein, donc Charonne, anthropologie d'un massacre d'État, hein, c'est publié chez Gallimard, en fait est un historien qui a tout à fait intégré toutes les critiques que je vous ai dit. C'est un historien post 70-80, hein. Et donc il sait parfaitement tous ces enjeux, et donc il travaille avec ses idées, il est très marqué par l'anthropologie, par la sociologie, donc un des éléments les plus importants de son livre, c'est de reconstituer tout le cadre anthropologique de cette manifestation. Donc quel est le rapport à la violence de la police, hein, comment elle est formée, qui sont les policiers, quel est le rapport à la manifestation des manifestants, comment on occupe l'espace, etc. Donc c'est un livre très anthropologique et sociologique, donc c'est pas du tout une histoire positive où il s'agirait. Mais en même temps, à un moment donné, De Verpe dit, alors qu'encore une fois, c'est un livre merveilleux, il y a tout le cadre interprétatif que vous voulez, hein, c'est à la pointe des sciences sociales, il dit à un moment, il y a trop de versions dans ces récits, et notamment il y a deux versions qui s'opposent, la version de la police et la version des manifestants. Et donc la version, en gros, de la police, hein, c'est que au carrefour Voltaire-Charonne, quand la manifestation se dissout, la police est agressée par des manifestants qui refusent hein, d'arrêter la manifestation. Donc des manifestants armés et agressifs, et donc la police n'a fait que riposter. La version des manifestants et de bien d'autres, c'est de dire qu'en fait, le cortège est disloqué pacifiquement et que la police a attaqué, en quelque sorte, gratuitement, sans raison défensive aucune. Et donc De Verpe, après encore une fois avoir dessiné un cadre anthropologique qui est très en phase avec les critiques qu'on a fait d'un récit historique trop peut-être étroit, dit à un moment donné, c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter à deux récits aussi contradictoires. Et donc là, l'historien, hein, il a des narrations concurrentes, donc ça il le sait très bien, hein, toutes les critiques que je vous ai données, il les explique. Hein, il dit, on a plein de narrations, ces narrations sont relatives, c'est pas facile de peser les sources, on n'a pas les archives pour tout, surtout que certaines ont été fermées. Hein, les procès ont été menés de manière assez extrêmement bizarre. Mais finalement, à un moment, après avoir encore une fois abordé les choses, il dit « Il s'est quand même passé quelque chose le 8 février 1962 au carrefour Voltaire-Charonne. » Et donc, dit-il, « Il y a bien des témoins crédibles et des menteurs. » Et donc, du coup, sur un enjeu comme ça, hein, il y a bien des témoins crédibles et il y a bien des menteurs. Et donc, il va méthodologiquement essayer de surmonter ce que je vous disais, ce relativisme de narration concurrente. Et il a trouvé une manière de le faire qui est extrêmement subtil. Et il dit finalement, le critère que je peux trouver pour faire le tri dans les narrations concurrentes, et il y en a, vous imaginez le nombre de récits qu'il y a eu, il dit, il y en a un qui va me permettre de dire qui ment et qui ne ment pas, c'est la question de la stabilité du récit. Hein, c'est-à-dire finalement, il y a un côté du récit où les versions changent, bougent, et il y a un récit qui est stable et qui est toujours le même. Et cette question de la stabilité du récit, finalement, ça va être le critère principal qu'il va trouver pour donner force à un certain nombre de récits par rapport à d'autres. Et le récit, ça ne vous étonnera sans doute pas, hein, le récit le plus stable, c'est celui des manifestants. Et il arrive à démontrer hein, qu'en réalité, c'est bien un cortège pacifique qui se disloquait selon des logiques tout à fait pacifiques qui a été attaqué par des policiers qui sont donc des brutes. Hein, c'est pour ça qu'il appelle ça anthropologie d'un massacre d'État, pour des raisons qu'il explique. Hein, ce n'est pas des brutes parce qu'ils sont méchants en soi, mais parce que ça s'inscrit évidemment dans une conception de l'État et de la violence policière hein, qui va chercher à montrer. Et donc, ce qu'il va montrer, c'est que justement, en étudiant la stabilité du récit dans le temps long, hein, et la stabilité du récit d'un côté, c'est que finalement, il va démontrer que de l'autre côté, c'est bien un mensonge d'État. Et donc, ce n'est pas des narrations concurrentes qu'on pourrait mettre toutes sur le même plan, hein, comme sur une table où on jetterait les différents récits. Il y en a bien une hein, qui est la vérité. Et notamment, vous savez, pour ceux qui connaissent cette histoire, hein, un des éléments policiers de dire, en fait, les grilles du métro Charonne étaient fermées, et les manifestants ayant été jetés, ils se sont écrasés contre les grilles. Et bien là, l'histoire, c'est de dire, ben non, les grilles, elles étaient ouvertes. Elles étaient ouvertes. Il le montre, hein, je vous passe les détails par les documents qu'il a, la RATP, etc. Les grilles ont toujours été ouvertes, donc le récit policier ne tient pas. Donc là, on n'est pas. Hein, donc là, il y a bien une vérité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de narration à étudier. Ça ne veut pas dire que la narration policière ne vaut rien et n'est qu'un mensonge, mais ça veut dire qu'on est capable, quand on est un historien, de raconter cette histoire. Et donc, c'est un livre qui est merveilleux. Et je finis là-dessus parce qu'à mon avis, c'est pour l'historien secondaire, peut-être pas pour vous, c'est qu'Alain de Verpe est le fils hein, d'un des manifestants qui a été tué à Charonne. Hein, sa mère, c'était Fanny de Verpe. Et donc, évidemment, ce n'est pas non plus sans doute un livre. Hein, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des enjeux qui sont souvent entremêlés, et d'ailleurs il le dit très, c'est pas du tout nous qui l'avons découvert, il le dit tout à fait explicitement dans son introduction, et il dit notamment dans son introduction ce qu'il est, et d'ailleurs il se met en scène comme enfant aussi dans le livre, parce que évidemment comme il était le fils d'une martyre de Charonne, il a été mis en avant par le Parti communiste en particulier lors de manifestations, donc il se cite lui-même sans dire « je », mais en disant « le petit Alain de Verpe est mis en avant ». Hein, mais je crois qu'en réalité, cette histoire, vous allez me dire ici, je n'ose pas le dire, mais je pense qu'en réalité, c'est assez secondaire hein, qu'il soit le fils de Fanny de Verpe pour la manière dont il a réussi hein, à surmonter ses narrations concurrentes pour nous dire quelque chose sur le massacre de Charonne. Donc vous voyez comment on peut nouer dans un récit historien hein, ces trois, à la fois toutes les contradictions et les problèmes de la méthode et aussi ces différents enjeux éthiques et professionnel, et je crois que c'est un bon exemple de, à la fois des débats et des possibles qu'on peut faire, assumant, comme il disait lui-même dans son livre, le chemin escarpé de la vérité. Alors du coup, j'en arrive à ma dernière partie, le temps avance aussi, sur finalement, du coup, à partir de cet exemple et ce que je vous dis, quelle vérité peut-on conserver, qu'est-ce qui reste comme vérité historienne qu'on l'on puisse défendre. D'une certaine manière, si je, en ramassant un peu les choses, je dirais que la première vérité qu'on a, c'est pas celle du résultat, c'est celle de la méthode. Hein, en ce sens où c'est pas tant le récit qu'on va fournir in fine qui sera la vérité que la manière dont on aura administré la preuve de ce que l'on dit. La vérité de l'historien, et ça c'est fondamental par rapport à celle de la fiction, elle est prouvée. Elle est prouvée, c'est-à-dire qu'elle a des preuves, et ce qui la distingue des vérités métaphysiques ou des vérités fictionnelles, c'est qu'elle est vérifiable. C'est-à-dire que l'erreur, évidemment, peut être aussi démontrée. Elle est, donc, évidemment, la question de la preuve, elle est centrale dans le métier. Et donc, le questionnaire même de la preuve hein, sépare l'historien hein, de toutes les autres formes de vérité, qu'elles soient métaphysiques, philosophiques ou littéraires. Hein, cette notion de preuve, ça veut dire beaucoup de choses. Hein, c'est très lourd comme notion, la preuve de ce qu'on dit. Hein, comme dans ce cas de Charonne, j'aurais pu vous faire la démonstration avec Jeanne d'Arc, hein, pourquoi est-ce qu'elle est morte sur le bûcher, ou pourquoi est-ce qu'elle n'est pas un homme. Donc cette question de la preuve, hein, elle est encore une fois multiple, elle est liée à la méthode de l'historien, et donc du coup, elle conduit à un certain nombre d'éléments, c'est que l'historien spécule peu, a priori. Hein, il est peu spéculatif dans son récit. Hein, il est peu spéculatif parce que sans preuve, son récit s'épuise très vite. Et donc, il se rattrape ou se raccroche, hein, vous disiez accrocher, moi je dirais se raccroche, donc au document d'une part, et ensuite, second degré évidemment, à la manière dont il va citer les documents et dont il va les donner aux autres. Hein, et encore une fois, je pense que vous en avez peut-être l'expérience, je ne sais pas trop comment ça marche en psychanalyse ou en psychologie, mais le rapport à la note de bas de page finalement est un élément très fondamental du discours. Et donc du coup, évidemment, cette notion de preuve, c'est une notion, et c'est là évidemment où on ne peut plus croire à l'histoire vérité que je vous ai décrite en introduction, c'est que c'est évidemment une discipline qui accepte l'erreur. Hein, et qui, pour qui Antoine Pro, dont on parlait tout à l'heure, disait il n'y a pas de livre d'histoire sans erreur, pour mille raisons qui sont faciles à expliquer, mais c'est une science temporaire, l'histoire. Hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, pas ici, mais l'idée que quand on a dit les choses, elles sont là. C'est en réalité une science éminemment temporaire qui accepte donc l'erreur, mais la seule chose qu'elle n'accepte pas, c'est que cette erreur ne puisse pas être redémontée ou retrouvée, hein, sans référence. Et d'où ce rapport fondamental à la note de bas de page. Donc il n'y a peut-être pas de vérité historique, mais il y a une vérité historienne, hein, qui est celle de donner la preuve de ce qu'on dit, et même si on se trompe, de pouvoir donc le corriger, ce qui est évidemment la définition de la science. Et donc les règles de la vérité scientifique, hein, rendent du coup l'histoire loin des caprices, hein, d'un souvenir ou d'une mémoire aussi belle ou bien écrite soit-elle. Et donc cette vérité de la méthode, je ne vais peut-être pas vous ennuyer, hein, avec la méthode de l'historien dans le détail, mais donc tout ce protocole de recherche, hein, qui est parfois très lourd, parfois plus léger, fait partie intégrante d'une définition de la vérité historique. La deuxième notion, peut-être, qui répond un peu à ce que disait Paul Venn en disant qu'il n'y a de vérité que dans le cadre d'un programme, peut-être un des discours qu'on tiendrait le plus aujourd'hui pour argumenter la notion de vérité, c'est que finalement, ce qui compte, c'est l'échelle du regard. Hein, il n'y a peut-être pas de vérité absolue, ça dépend des échelles d'observation. Hein, ça a été un moyen d'intégrer cette question des échelles, les critiques que je vous ai dites, en disant, bien sûr, il y a des récits concurrents, bien sûr, il y a des textes, il y a du pouvoir, etc. Et donc, du coup, peut-être qu'il n'y a pas de vérité d'une période, de vérité d'un moment, il y a une vérité selon les échelles d'observation. Hein, et cette question des échelles, elle est très importante chez les historiens. Hein. Un livre qui a marqué le débat, c'était celui dirigé par Jacques Revel en 1996, qui s'appelait « Jeu d'échelle », hein, qui montrait combien on voit des choses différentes selon les angles de vue, selon les plans. Et évidemment, du coup, on pouvait accepter qu'il y ait des vérités qui soient relatives, hein, à l'échelle d'un individu, qui soient intéressantes, qui soient motivées, qui soient prouvables, mais qui perdent de leur force, hein, lorsqu'on cherche de grands déterminismes. Hein. Et du coup, ça a évité un certain nombre de débats. Par exemple, un débat qui, pour prendre un exemple médiéval, un débat qui a agité les historiens pendant 30 ou 40 ans, c'est qu'est-ce que c'est que le féodalisme, hein, ce qui était un débat qui était à la fois empreint du marxisme, empreint de plein d'autres choses. Et donc, qu'est-ce que c'était que le féodalisme? Qu'est-ce que c'était que les sociétés médiévales, féodales? Et donc, évidemment, à chaque fois que quelqu'un donnait une définition, il y en a un autre qui dit « Oui, mais moi, j'ai trouvé dans ma région que non. » Et donc, du coup, le débat continuait sans fin, parce que celui qui était spécialiste de la Provence définissait le féodalisme autrement que celui qui était spécialiste, hein, de la Flandre, hein, en disant « Mais oui, mais ce que vous avez défini à partir de votre région, ça ne fonctionne pas pour ma région, etc. » Et donc, du coup, il y avait des débats sans fin, parce que tout le monde cherchait ce que c'est que la société féodale, hein, ce que c'est que le féodalisme. Et donc ça, on a un peu arrêté. Hein, donc on a joué sur les échelles en disant que finalement, il pouvait y avoir, hein, par exemple, il y a eu ensuite la notion de féodalisme méridional. Ensuite, il y a eu des tas de raffinements. On a dit peut-être qu'à l'échelle seigneuriale, c'est pensé comme ci, comme ça. Et donc du coup, les débats ont arrêté d'être communs, hein, pour se concentrer sur la bonne échelle d'observation. Alors ensuite, on peut débattre là aussi sans fin, c'est des questions de méthode. Quel est le meilleur plan, hein, pour aborder la question de la société féodale? Est-ce qu'il faut s'en tenir à l'échelle de la seigneurie? Est-ce qu'il faut prendre la région? Est-ce qu'il faut prendre la principauté? Mais en tous les cas, les débats se sont faits plutôt en termes de jeu d'échelle. Et est-ce que le jeu d'échelle produit des connaissances propres qui ne soient pas la même qu'un cadre large ou qu'un plan très serré? Et donc, évidemment, ça a posé la question de la capacité à généraliser, hein, de l'historien. Et là, sans doute, c'est une des caractéristiques de notre temps, hein, que la modestie justement de ce point de vue, hein, et de plus en plus le refus de généralisation au nom, hein, de cette impossibilité d'une vérité générale, et donc accepter qu'il y ait des vérités locales qui ne sont pas forcément productrices d'une interprétation d'ensemble. Hein, et bon, alors, c'est quelque chose qui est connu, hein, on a appelé ça de manière un peu pédante la crise des grands récits. Hein, c'est que les historiens d'aujourd'hui, justement, par cette peut-être pudeur à reconstituer une vérité qui est si relative, ou en tous les cas si problématique, hein, n'écrivent plus volontiers, hein, comme leurs prédécesseurs, de grands récits. De grands récits, parce qu'ils savent très bien que dès qu'on va changer d'échelle, dès qu'on va basculer, on va justement peut-être écrire les choses autrement. Et les débats qui amènent à des impasses, c'est parce qu'on veut rester souvent à des échelles extrêmement générales. Hein. C'est pareil, une question qui nous a beaucoup occupé en historiographie, par exemple, c'est est-ce que les soldats de 14-18 étaient consentants à la guerre ? Autrement dit, est-ce que par patriotisme, par souci de protéger leur famille, on a globalement, hein, des troupes qui sont consentantes. C'était le terme qui était employé dans l'historiographie. Et évidemment, la question s'est peut-être mal posée parce que ça ne se pose pas à une échelle aussi globale. Hein, et on s'est rendu compte en étudiant dans le détail qu'on ne pouvait pas y répondre. Hein, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, il n'y a pas un consentement massif à la guerre, il n'y a pas non plus un refus massif. Hein, mais c'est en jouant des échelles qu'on comprend. Et par exemple, des échelles qui ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, les échelles régionales, il y a des solidarités régionales qui font que le rapport à la guerre est différent. Parfois, c'est des échelles très locales, hein, et c'est-à-dire au niveau de la tranchée que ça se joue, le rapport à la guerre. Et donc, du coup, ce type de vérité peut-être plus locale, plus partielle, plus modeste, a des conséquences très importantes, encore une fois, c'est que les historiens de ma génération, par exemple, hein, ou, contrairement à celle de nos prédécesseurs, hein, on a du mal à écrire une histoire de France ou une histoire du Moyen-Âge, parce qu'on se dit, elle est où la vérité de la France, hein. La vérité, on peut la voir si on étudie, encore une fois, un groupe de soldats dans une tranchée du Pas-de-Calais. Là, oui, hein, mais ensuite généralisé. Et donc, du coup, hein, ce n'est pas forcément aujourd'hui les plus grands historiens qui se lancent dans les grandes histoires, comme le faisaient Duby, Le Goff, hein, à un temps où, justement, il y avait ces grands récits qui étaient porteurs, que ce soit le marxisme, que ce soit le structuralisme, ou bien d'autres. Et donc, cette idée que le changement d'échelle, finalement, permet de faire de l'histoire autrement, est assez porteur de connaissances, parce que du coup ça permet aussi, hein, de trouver de nouveaux angles d'approche. Hein, par exemple, l'histoire sociale traditionnelle, c'était souvent l'histoire des structures. Hein, on étudiait la classe ouvrière dans son ensemble, hein, on prenait les salaires, on prenait les taux de salaire, on prenait les taux de chômage, on prenait les taux de grève, et on étudiait comment ça se passait. C'était des très belles thèses des années 70-80. Hein, donc on étudiait les mineurs de Carnot, on étudiait les ouvriers lyonnais, hein, mais on les prenait globalement. Par exemple, maintenant, à ce changement d'échelle, on va étudier un peu des questionnaires pareils, mais on va le prendre à une échelle d'une rue. Par exemple, au lieu d'étudier les ouvriers du Nord, on va prendre une rue à Lille, et on va voir comment elle change sur un siècle. Donc, et en se disant, on ne dit pas qu'on va raconter l'histoire de la classe ouvrière du Nord, mais on va raconter comment concrètement, dans une rue de Lille, hein, les différents rapports sociaux s'équilibrent, se déséquilibrent en fonction des époques et des temps. Donc vous voyez, ça a des effets de connaissance, mais ça a aussi des effets de monestie, et c'est central pour nous à l'échelle de ce qu'on peut produire de la vérité. Enfin, peut-être, dernier aspect, puisque j'arrive doucement à l'heure dite, on avait dit plutôt moins que plus, il y a peut-être une dernière vérité qui est un débat, finalement, qui décide ? C'est évidemment, pour qu'il y ait un vrai, il faut quand même qu'il y ait une instance de validation, hein, à un moment donné. Et donc, cette instance de validation, évidemment, c'est un vieux débat aussi, c'est qu'il n'y a pas de vérité scientifique sans une communauté savante pour la reconnaître. Et du coup, d'une certaine manière, la question, c'est qui décide finalement que tel livre d'histoire est dit en quelque sorte un vrai, même relatif. Et c'est là où beaucoup insistent, hein, aujourd'hui, par exemple, sur l'idée que finalement, la vérité scientifique, c'est celle qui est reconnue par la communauté savante, et d'une certaine manière que le consensus historien, il va être à la fin du processus plus qu'au début. Hein, et d'une certaine manière, c'est quand une recherche sera validée que finalement la vérité de la communauté surgira. Hein, c'est notamment les travaux de Gérard Noiriel et d'autres, que vous connaissez peut-être, qui est un spécialiste de l'immigration, hein, et qui a beaucoup insisté sur cet aspect de définition par la communauté de la vérité. Et vous voyez bien évidemment aussi le risque. Hein, le risque de cette définition, c'est que toutes les formes marginales ou toutes les tentatives un peu nouvelles d'écrire l'histoire peuvent être totalement invalidées ou mettre très longtemps à être validées. Donc du coup, l'historien passant sa vie à être invalidé pour finalement être reconnu longtemps après, ça a été évidemment une définition de la vérité qui marginalise les dissidents. Donc c'est pour ça que c'est aussi une définition en tension. Hein. C'est évidemment le principe même, hein, si de la vérité est construite par la communauté scientifique, finalement, où serait-elle construite sinon ? Et en même temps, toutes les tentatives, évidemment, de marginer la dissidence. Et donc, et surtout, peut-être aujourd'hui, c'est aussi une discussion qu'on a eue un peu avant la lettre, hein, comme on est un peu dans un retour à l'ordre académique, cette définition de la vérité, elle est très problématique, parce qu'évidemment, elle va avoir tendance à normaliser beaucoup les processus. Et donc, d'une certaine manière, encore une fois, on pourrait dire que sans doute aujourd'hui, Foucault n'aurait pas le moindre poste universitaire, hein, si on abordait son œuvre à partir de ce critère de la vérité de la communauté savante. Puisque, comme vous le savez, lorsque ces livres sont sortis, les historiens ont vu toutes les erreurs qu'il avait faites, de fait, hein, parfois tout à fait justifiées. Mais il est évident que si vous réduisez Foucault à sa validation par la communauté scientifique, hein, ça posera quand même un certain nombre de problèmes de vie intellectuelle. Et donc, cette définition, elle a quand même un certain nombre limites. Donc, en même temps, on n'en a pas beaucoup d'autres. Donc, vous voyez, autrement dit, de ma définition un peu académique de la vérité au XIXe siècle, on est passé aujourd'hui à des vérités beaucoup plus modestes et beaucoup plus fragiles. Hein. Donc, la vérité de la méthode, sans doute la plus défendable, la vérité de l'échelle, hein, qui permet d'accepter des regards un peu différents, et puis la vérité de la validation par la communauté scientifique, donc finalement un retour à une vérité qui est celle du pouvoir, avec tous les risques que ça comporte. Donc, pour conclure d'un mot, il est évident, hein, aujourd'hui que à la fois notre rapport aux sources, notre rapport aux documents, notre rapport à la trace est devenu extrêmement complexe, extrêmement fragile et surtout extrêmement situé. Hein, et donc plus personne ne défendrait que l'historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays et qu'il donc aura cet rapport à la vérité nue au-delà du pouvoir. Mais du coup, finalement, ce qu'on a continué à sauver à travers tout ce que j'essayais de vous dire là, c'est que ce rapport très distendu, distancié et fragile à la vérité n'a pas finalement empêché de défendre la notion d'objectivité, qui finalement est celle, hein, qui est survécue de tous ces débats-là. Hein, et donc l'idée que l'historien, malgré tout, pour toutes les raisons et tous les enjeux que j'ai essayé de vous décrire, hein, doit tendre à l'objectivité, malgré tous ces éléments-là, c'est finalement un môle de résistance, et finalement un môle de résistance qui, fragile méthodologiquement, finalement, est porteur, comme j'essaie de vous le montrer aussi, d'un certain nombre d'enjeux politiques et moraux, finalement, de première importance. Merci beaucoup.
Voilà, il y a un certain nombre de concepts effectivement qui se croisent avec des concepts que nous on manie dans la psychanalyse, même si on les manie différemment et avec des sens certainement différents. Mais bon, la question de la vérité, c'est quand même une question qui nous intéresse au nom de la cure, et le travail analysant notamment court un petit peu après la vérité, même si à la fin de la cure elle a un tout autre destin finalement. Bon, et la façon dont justement vous relativisez, où il y a un caractère relatif de la vérité, ça ouvre à plusieurs questions. Et notamment ce que vous avez un tout petit peu abordé, mais pas énormément là, et qui moi m'avait beaucoup intéressé, c'était l'écart, vous l'avez abordé, mais pas énormément, c'était l'écart nécessaire qu'il y a entre la réalité historique, les faits historiques, voilà, quelque chose qui serait peut-être plutôt du... À un moment, vous avez pu dire même dans votre livre, le réel, les faits réels, et les témoignages, d'autre part, et puis ensuite l'écriture de l'histoire. Et que donc tout ça, ça en passe par une certaine mise en scène ou narration ou récit, vous utilisez plusieurs mots, qui est au centre du travail de l'historien. Et donc, bon, pour approcher au plus près de la vérité, Vous avez beaucoup, beaucoup axé là votre propos sur la... sur la vérifiabilité et notamment la référence à la communauté scientifique, aux notes de bas de page. Et donc, même peut-être vous pourriez nous préciser davantage ce qu'il y a dans ces notes de bas de page. Est-ce que c'est se référer à d'autres textes ou à d'autres produits d'historiens ou est-ce que, quel rapport ça a avec, avec les traces ou avec les sources plutôt Voilà. Et donc, pour approcher au plus près de cette vérité, on passe forcément par cette dimension de fiction, vous dites. Voilà, avec l'avantage et l'inconvénient que la fiction fixe. Alors, nous, on l'écrit, la fiction, avec un X, justement pour mettre en exergue cette dimension de cette façon dont ça fixe. L'avantage pour l'historien, c'est que ça fixe une certaine connaissance, ça enseigne ça, de quelque chose, ça nous apprend, mais aussi avec l'inconvénient que ça fixe, ça peut aussi fixer une version, et notamment ce que vous pouvez dire autour d'une version d'une histoire officielle, d'un roman national, voilà, qui dirait une vérité, une et univoque. Voilà. Donc la question que vous abordez, est-ce qu'on peut jamais toucher finalement ou attraper la réalité historique? Est-ce qu'elle reste pas finalement toujours un peu hors d'atteinte, même si l'intentionnalité de vérité est bien le but de l'historien, est-ce qu'il le meut? Mais est-ce que finalement on l'atteint jamais? Est-ce que cette dimension de reconstruction de la réalité historique, finalement à laquelle on n'a peut-être jamais accès, vous allez peut-être me répondre là-dessus, et c'est impossible de saisir le réel pleinement à partir des traces. Ça a des conséquences pour l'historien. Vous nous avez déployé un certain nombre de conséquences, effectivement, sur le fait que du coup, ça a mis les historiens autrement au travail, et notamment dans ce que vous abordez sur la façon dont finalement on cherche à attraper plus des vérités partielles ou plus limitées ou plus moins généralistes. Mais voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les conséquences du coup que ça pourrait avoir pour l'historien de constater que cette vérité est quand même teintée de fiction, enfin, où elle est montée quand même, elle s'écrit à partir d'une narration, comme vous dites, avec cette dimension de fiction. Du coup. Voilà. Et est-ce que, du coup, ça modifie le rapport aux sources? Le rapport aux sources diverses, puisque vous pouvez décrire effectivement que les sources se basent sur des traces écrites, orales, audio, visuelles, enfin, que ça s'est aussi peut-être démultiplié davantage, d'ailleurs, les traces au fil de la façon dont la discipline histoire s'est montée. Voilà, est-ce que ça change effectivement, bon, vous nous l'avez dit, hein, la façon de faire de l'histoire. Donc voilà un petit peu ma première question pour lancer le débat. Vous ayez le temps de préparer aussi vos questions. Puis Patricia, on a
certainement une autre. Je réponds
comme vous voulez.
Comme vous voulez.
Je vais peut-être vous répondre tout de suite sur un deux points. Pourquoi finalement, pourquoi finalement l'histoire telle qu'elle est écrite par les historiens est fondamentalement forcément une fiction? Parce que aucun événement historique n'est descriptible dans son entier, sinon ce serait totalement illisible. Vous imaginez une bataille, il est 8h01, il y a 263 chevaliers, il y en a 25 qui partent à gauche, 27 qui partent à droite, il est 8h02, il y en a un qui perd sa plume, il y en a un autre dont le cheval est blessé. Donc si on était dans, même du point de vue, donc forcément, dès que vous écrivez, vous faites des choix. Hein, sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Donc d'une certaine manière, on pourrait défendre déjà à partir de là qu'on est dans une fiction complète. Puisqu'une description du réel, si tant est même, je ne parle même pas des traces, hein, même si on avait tout. Hein, si on avait par exemple une bataille, vous avez tous les chevaliers ont raconté leurs souvenirs, on a des photos, on a des films, on a tout ce que vous voulez. Hein, même si on avait toutes les traces, on aurait d'écrire une fiction de toute façon. De toute façon. même si documentairement on avait à peu près, même si on comprenait tous les mots, qu'on avait toutes les interprétations, qu'on avait tous les témoignages, de toute façon c'est une fiction puisque vous faites des choix. Vous faites des choix à tous les moments, des choix de langue, évidemment, mais simplement des choix de récit, encore une fois, parce que sinon ce serait lisible, et d'ailleurs peut-être même pas possible de l'écrire. Hein, donc de toute façon, on pourrait dire à partir de là qu'il faut acter qu'il y a cette dimension de fiction. Hein. Donc la question c'est ensuite, évidemment, le rapport aux traces, et c'est là où on se différencie quand même, vous dites des témoignages. Qu'est-ce que dit une note de bas de page? Et c'est là où vous voyez la limite de la fiction, je vous dis tout de suite, d'accord pour la raison que je dis, c'est que en même temps, là où on va s'arrêter, ce sera la différence avec un romancier, même s'il y en a qui utilisent les notes de bas de page et qui utilisent les références, on pourra y revenir, le rapport entre histoire et roman, c'est que, quel que soit le choix narratif que vous avez fait, bon, mauvais, complet, pas complet, c'est qu'encore dans la note de bas de page, vous allez expliquer vos choix. Donc vous laissez la possibilité, c'est la différence avec la fiction, de reconstituer les parties que vous avez laissées de côté, ou les non-choix que vous avez faits, ou disons l'alternative à votre choix. C'est ça la grande différence à l'historien. C'est dire, je vais finalement de ces deux récits, je vais vous partir de celui-là, mais dans ma note de bas de page, si je suis un historien sérieux, au standard, je vais vous dire, ben voilà, j'ai choisi le récit de tel témoin, mais sachez que si vous vouliez raconter la bataille autrement, j'en ai trois autres à disposition. Et donc vous les citez en note de bas de page. Hein. Ça, c'est la bonne note de bas de page, normalement. C'est celle qui dit les choix que vous n'avez pas faits, ou ceux que vous avez faits. Et donc du coup, d'une certaine manière, c'est là où vous cadrez votre fiction, et qu'elle n'est pas débridée, et qu'elle correspond à tout ce que j'essaie de définir comme une éthique, c'est que vous allez l'aborder de tous les éléments qui permettent aux autres de dire pourquoi et comment vous avez écrit ce passage historique. Et donc en ce sens, vous affaiblissez la dimension fictive inhérente à l'écriture de l'histoire par ces références-là. Hein, et donc si vous dites, ben voilà, j'ai décrit la bataille, telle bataille ou tel événement historique ou militaire à partir de telle source, sachez que les autres diraient peut-être autre chose. Et éventuellement, vous signalez les contradictions. L'autre élément aussi que les notes peuvent, c'est la hiérarchie des témoignages. Hein, parce que les témoignages, évidemment, n'ont pas tous le même rapport à l'écriture, au réel, etc. Et donc, ce que peut faire l'historien pour limiter sa fiction, c'est de donner un certain nombre de hiérarchies ou d'éléments, hein, de témoignages. Et ça, évidemment, c'est une question de métier. Il y a une dimension de métier. Hein. Bon, c'est très simple. Par exemple, pour prendre la guerre de 14-18, vous avez des soldats qui écrivent à leur famille, évidemment, d'autres qui écrivent à leurs amis ou à leur patron. Et parfois la version n'est pas la même, et donc la définition de la version, c'est que généralement quand vous écrivez à votre famille, vous allez plutôt avoir tendance à édulcorer la violence de la guerre. Hein, et quand on a la chance d'avoir les lettres, moi, une fois c'est trouvé, une lettre que je n'arrivais pas à interpréter parce que ce que racontait le soldat, ça ne correspondait à rien de ce que je savais de l'événement militaire. Il avait beaucoup souffert, il racontait ça comme une promenade de santé. Et je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça, parce que ça ne collait pas vraiment. Bon, et en fait, j'ai vu que systématiquement, ce qui n'est pas le cas de tous les soldats, il protégeait sa famille. Et en fait, j'ai trouvé la même lettre écrite à son patron, où là, il réécrit la violence de la guerre telle qu'elle est. Donc cette hiérarchie des témoignages, c'est notre travail, hein, quand même, de faire la part des choses. Et donc, au départ, ça peut être simplement le soupçon, parce qu'il y a une forme d'intuition chez l'historien. Hein, donc va permettre de hiérarchiser, de recadrer les témoignages. Donc vous voyez, même dans cette forme de toutes ces narrations, à un moment, vous vous arrêtez, et peut-être j'aurais pu ne pas avoir la lettre à la famille. Mais mon soupçon aurait déjà montré, j'avais déjà fait un travail d'élaboration, hein, sans aller à la deuxième étape, c'est de dire voilà pourquoi il écrit. Hein, donc du coup, vous voyez, vous avez quand même tout un ensemble de mécanismes, de clés, et ces clés, vous devez les donner dans les notes. Hein, et c'est là où, voilà, pourquoi on est si attentif à ça. Hein, et donc là, vous cadrez votre fiction, vous lui donnez des éléments, hein, de limitation pour justement ne pas être sans lien, voilà, peut-être, avec le réel.
Donc, je vais juste vous poser une petite question. Vous dites que l'historien doit tendre à l'objectivité. Hein, et il m'a semblé que, en vous entendant, que finalement, vous considérez que l'engagement de l'historien et ce qui va permettre d'être au plus proche de la vérité. Au lieu de faire obstacle, c'est ce qui va permettre de faire la démarche qui va rapprocher de la vérité. C'est ce qui m'a semblé entendre. Et j'avais une autre question. Est-ce que le temps est-il une difficulté pour l'historien? ou au contraire, le temps apporte le recul nécessaire pour mieux distinguer le vrai du faux. Et en effet, à une époque où l'immédiateté d'Internet permet de suivre en temps réel les faits, on rencontre plus que jamais des contestataires de la réalité des faits et pullulent des théories du complot. Il y a quelque chose là qui m'interroge.
Voilà. Merci. Alors, la tension entre l'objectivité et l'engagement, bon, ça, c'est une question de fond, ça aurait pu faire l'objet d'une discussion complète. Bon, il y a une réponse qui est très classique maintenant, peut-être ça, ça vous intéressera aussi, c'est en gros la position standard hein, dans le rapport entre engagement et objectivité, ensuite on peut discuter, c'est l'objectivation. C'est-à-dire l'idée de dire, après tout, dites ce que vous voulez, mais vous dites d'où vous parlez. Hein, et ça, c'est quelque chose qui, dans le métier maintenant, et du coup, il y a une part du métier qui enfle, qui n'avait pas c'est l'autofiction ou l'auto-histoire, où l'historien se raconte. Mais il se raconte pas seulement par narcissisme ou par volonté de raconter son métier, ni l'un ni l'autre, mais simplement parce que cette idée est de plus en plus forte que d'une certaine manière, pour gérer cette tension entre objectivité et engagement, le mieux c'est finalement de dire d'où je parle et ce que je suis en train de faire. Hein, d'où le fait que De Vert, évidemment, ne cache pas qui il est, il aurait du mal, mais après tout, il le dit très légèrement. Hein, et il y a des historiens même qui vont beaucoup plus loin, hein, qui finalement, dans leur introduction, vont dire, ben voilà, je fais l'histoire de l'Église, mais je suis moi-même un croyant, je fais l'histoire du Parti communiste, mais je suis issu d'une famille communiste, et qui, plus ou moins, hein, vont ce qu'on appelle, nous, je ne sais pas si vous dites ça aussi, mais quoi, l'objectivation. Hein, l'objectivation, c'est-à-dire que vous vous situez en essayant de poser qui vous êtes, et surtout d'où vous parlez. Hein, et ça, c'est très important, il y a deux choses, il y a qui vous êtes, mais il y a aussi d'où vous parlez. Et d'où vous parlez, ça ne veut pas simplement dire je suis communiste, je suis homosexuel, je suis issu d'une famille qui a traversé l'Europe avec tous les réfugiés possibles et imaginables. Hein. Ce n'est pas seulement d'objectiver, mais c'est aussi objectiver sa situation présente. Hein. C'est-à-dire que de dire par exemple aussi éventuellement dans quel rapport de pouvoir vous êtes pris quand vous écrivez, quel rapport à l'archive vous avez, quelle institution vous appartenez. Hein. Ça va plus loin que simplement, disons, une forme de mise en scène personnelle de ce qui peut vous motiver émotivement à parler d'histoire. Et donc cette question de l'objectivation, pour nous, c'est sans doute un des éléments les plus importants. Hein. Et donc du coup, on accepte de moins en moins les discours cachés, comme pouvait peut-être le faire le marxiste des années 70, qui était, bon, beaucoup de gens étaient marxistes, ça allait de soi. On ne disait pas, je fais l'histoire du féodalisme, parce que je suis... On disait, ben voilà, le féodalisme, c'est ça, c'est Marx l'a dit, c'était comme ça, et maintenant on va travailler comme ça, et je ne suis pas très subtil, c'est fait avec plus de subtilité, mais c'était quand même ça. C'était pratiquement un travail objectif que travailler en marxiste sur le féodalisme. Maintenant, on attend, c'est quelque chose qui a été sans doute un peu, comment dire, qui est aujourd'hui très peu accepté. Et par contre, ce qui marchera bien, c'est cette dialectique hein, entre l'objectivation et l'engagement. Et donc, et vous savez aussi, ça va très loin, alors ça, on pourra en discuter. Alors là, ça vous intéressera directement. Hein. C'est qu'il y a une forme auquel je suis pas du tout indemne, hein, mais c'est que de plus en plus, les historiens se racontent eux-mêmes, ils font leur propre histoire. Hein, et donc du coup, cette volonté d'objectiver, de toujours dire finalement tout dépend, ça revient à ce que je vous disais sur les obstacles à la vérité, à force de dire tout dépend de moi, ben, finalement j'ai parlé de moi, après tout. Hein. Et donc, voilà, alors c'est ce que ça a commencé à s'appeler d'abord les égo-histoires, où les historiens se racontaient. Et maintenant, et d'ailleurs, moi j'écris parfois maintenant un peu comme ça, c'est-à-dire que maintenant l'historien se met en scène de plus en plus. Alors je vais aux archives, il est 8h, j'écris mon croissant, mais je ne présente pas. Hein, c'est-à-dire que vous avez ce récit de la manière dont l'historien travaille, dont il est, hein, qui peut paraître naïf, mais qui répond en fait à tous les débats méthodologiques que je vous ai donnés. Et donc en pensant hein, que s'il dit tout ce qu'il a fait, d'une certaine manière, il va retrouver une forme de vérité qu'il a perdue pour toutes les raisons que je vous ai dites. Et donc, du coup, il se met en scène. Hein. Par exemple, le livre qui est très réussi là-dessus, hein, mais alors qui se met en scène à tous les étages, c'est celui de Gérard Noiriel sur le clown chocolat. Vous avez peut-être vu le film qui est sorti avec Omar Sy. Donc, c'est en fait, il y a un film qui est issu d'un travail d'un historien, hein, qui s'appelle Gérard Noiriel, qui est un ami que j'aime beaucoup, donc qui m'a beaucoup appris. Donc, ce n'est pas du tout une critique. Mais il a fait un livre donc, pour raconter l'histoire du clown chocolat, lisez-le, c'est typiquement l'aboutissement de toutes ces réflexions. Il raconte, donc le premier chapitre, il va à La Havane, c'est un esclave, vous le savez peut-être pour ceux qui ont vu le film, hein, c'est un esclave cubain au départ, le clown chocolat. Et donc, Noiriel va donc à la Havane, et il va sur ses traces, mais au lieu de dire bah, j'ai trouvé ça et ça, après tout, il aurait pu faire ça en une demi-page, en disant voilà, à la Havane, j'ai trouvé tel document, j'ai trouvé. Il dit alors je me promène, il fait chaud, etc. Et donc vous avez comme ça un chapitre entier où Gérard Noiriel se balade à la Havane. Mais je ne pense pas que c'est juste pour raconter son voyage, même si ça doit être agréable. Mais c'est parce qu'il dit, ben voilà, je vais dire les choses comme je les ai vécues, comme ça je vais dire la vérité de ma recherche. Donc je ne pense pas du tout que c'est du narcissisme. C'est vraiment cette réponse à tous ces débats méthodologiques sur la vérité. Alors, et ça va si loin. Alors lui, c'est pour ça que ce livre, il est parfait pour illustrer mon propos. Parce que, et même, il écrit des lettres fictives à Chocolat, quand il n'y arrive pas. Hein, donc il dit, ben voilà, cher Chocolat, j'ai trouvé tel document, mais j'avoue qu'avec ce document, j'arrive pas vraiment à comprendre ce que tu as pu penser à ce moment-là. Et donc il a des lettres qui ponctuent son récit. Mais là encore une fois, je pense pas que c'est pour s'amuser, c'est pas non plus pour écrire une forme de littérature, je pense pas que c'est pas spécialement un historien qui cherche une forme de reconnaissance littéraire, mais je pense que c'est toujours encore une fois cette idée, ben peut-être si je fais ça, je vais montrer toutes mes faiblesses, là où j'y arrive pas, justement, là où j'ai pas les documents. Donc, la manière de le dire encore plus clairement, c'est finalement ces lettres à Chocolat, où il étale ses incapacités à retrouver tel ou tel aspect du personnage. Et donc, ça, vous l'avez dans le Clou de Chocolat, le livre est très bien, donc vous pouvez le lire. Donc, je pense que ça, c'est l'aboutissement de cette objectivation. Hein, donc, je vais tellement loin avant. Alors, ça a commencé modestement, c'était une introduction. Hein, donc on peut dire la version modeste, c'est De Verpe. Je voudrais dire dans ce livre que je suis le fils de Fanny De Verpe, et il dit, je crois que ça ne me donne des titres ni supplémentaires, ni moins de titres non plus, à écrire ce livre. Donc vous voyez, c'est plutôt léger, mais l'objectif. Et puis il y a le côté Noiriel ensuite, hein, où on a droit à tous les croissants qu'il a pris avant d'aller aux archives, et il dit même, ben voilà, ce qui pourtant était le béaba du métier, il dit, ben oui, je trouve ce journal dans les archives, alors que ben, on fait ça toute la journée. Mais là, il le raconte. Vous voyez ? Donc ça a été un moyen peut-être de gérer cette tension entre l'historien qui est forcément engagé dans un certain nombre de choses, pris aussi dans ses tensions à lui, et puis cette idée d'objectivité. Hein, donc alors ensuite, il y a d'autres manières d'objectiver, hein, mais si vous voulez, là vous avez un peu, vous avez la modalité light, je dirais, avec De Verpe, où ça fait une demi-page, hein, et puis ça occupe tout le livre. Hein, chez Noiriel, c'est la modalité, on pourrait dire, hard. Voilà.
Et le travail et le temps.
Ah oui.
Peut-être qu'il y a des questions aussi.
Bon, c'est le temps. Oui, le temps, ça, c'est une grave question. Si j'ai bien compris dans votre question, parce que je suis passé, c'est l'idée, est-ce que la distance du temps change le rapport à l'objectivité et à la vérité? C'est ça votre question?
Au vrai ou au faux? Est-ce que le temps apporte le recul nécessaire pour mieux distinguer le vrai du faux? Et qu'est-ce qui se passe actuellement avec justement avec Internet, où on a tous les faits au moment où ils se produisent, et il y a d'autant plus de contestation de ces faits-là que...
Alors, je dirais que, si vous voulez, l'idée que le recul du temps amenait à une meilleure compréhension, c'était un peu le modèle ancien chez nous. C'est-à-dire, c'est le modèle qui correspond à ce que je vous disais, la vérité. Donc, il y a des historiens qui disaient, moi je m'arrête à... Pierre Goubert écrivait, ça devait être dans les années 60-70, il disait, moi je m'arrête à 1914 parce qu'après c'est du journalisme. Voilà, donc hein, voilà, il écrivait ça 50 ans après. Donc, vous voyez, la distance de 50 ans, c'était du journalisme. Aujourd'hui, finalement, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que il y a des événements très anciens qui vont susciter finalement autant de crispations et de polémiques que des moments récents. Bon, la Révolution française cristallise encore, regardez la Vendée, hein, finalement il y a un recul maintenant quand même de plus de 2 siècles, et ça cristallise finalement, les usages du passé finalement ne correspondent pas tellement au rapport de distance au temps. Hein, et vous savez que par exemple la Serbie médiévale continue à instrumentaliser hein, la bataille du Champ des Mers hein, de 1389 comme un identitaire, et donc c'est des enjeux qui au moment du Kosovo vont ressurgir avec une violence incroyable. Donc l'idée que finalement, si les périodes anciennes seraient porteuses d'une forme d'apaisement, ça ne marche pas tant que ça. Disons que tendanciellement ça marche. Donc du coup, on est un peu sorti de ce schéma. Voilà. Et puis on s'est rendu compte que finalement, avec la méthode historique, et ça s'est développé, mais ça a toujours été le cas, on peut faire une histoire très récente. Hein. Il y a des historiens qui font l'histoire d'avant-hier. Hein. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est une partition qui a perdu de sa force, en fait, pour les raisons des deux côtés. D'une part, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, l'activation du passé ne dépendait pas toujours du recul, d'une part. Et puis d'autre part, que finalement, la méthode, et je voulais vous y répondre aussi, finalement, était capable, la méthode historienne... était capable finalement de produire du recul, en fait. C'est plutôt vous qui le produisez par votre méthode que l'objectif, l'objectivation du rapport au temps, si vous voulez. Et donc, en ce sens, hein, la capacité de mise à distance dépend plus de la méthodologie que vous choisissez, la manière dont vous travaillez, que de, du rapport objectif au temps. D'autant que le temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans tout temps, il y a tellement de temporalités enchâssées. Hein, il n'y a pas un temps monolithique et linéaire, là aussi, les histoires. Donc, on travaille beaucoup aujourd'hui avec cette notion de temporalité, hein, et de dire que, très souvent, bon, ce n'est pas nouveau, puis ce n'est pas en histoire, mais que dans une période donnée, en réalité, il y a toujours plusieurs temps, hein, qui n'ont pas tous la même vitesse, pas tous la même avancée. Il y a des temps qui sont actifs, d'autres qui sont passifs, mais qui sont toujours là, etc. Hein, ça a été fait aussi en philosophie chez Ernst Bloch, par exemple, hein, cette idée de temporalité distincte dans un même moment. Hein, il parlait, je cherche le mot en français, peu importe, mais l'idée qu'il y a des temps anciens qui sont présents même dans des temps modernes, et que parfois les contradictions des temps font exploser les sociétés. Il le pensait à travers le nazisme. Une des causes du nazisme était que finalement, dans une société très modernisée, il était resté des temporalités très anciennes, hein, qui étaient celles d'une partie de la paysannerie allemande, etc. Hein, et donc, pour lui, la question des temporalités, c'était quelque chose de très actif. C'était pas seulement une description, je dirais, historique, c'était aussi la réalité de ce que les gens vivaient. Donc, pour toutes ces raisons, je dirais que d'une certaine manière, c'est plus la méthode de l'historien qui va produire le recul que la réalité objective de la manière dont une période se situe dans un temps plus ou moins ancien. Et alors, pour l'autre question finalement qui est assez fondamentale, hein, moi je la reformulerais comme ça, est-ce que par exemple la méthode de l'historien peut aider à hiérarchiser dans les discours et à se battre contre les formes de circulation excessive de l'information ? Oui, je pense que c'est là où je vous disais quand même que l'éthique professionnelle, même d'une certaine manière, la vieille méthode historienne, je dirais, telle qu'elle a été définie au XIXe siècle par les grands fondateurs de la discipline en France comme en Allemagne, c'est une méthodologie assez simple, hein, c'est quelque chose qui, quand on l'a, permet de lutter justement contre la profusion du récit, hein, et de hiérarchiser. Cette méthode, elle était très simple, enfin elle n'est pas spécifique à l'histoire, mais elle était formulée comme telle, disait que face à tout document, donc face à tout texte, l'historien travaille toujours avec ce qu'on appelle une critique externe et une critique interne. La critique externe, c'est toujours la première étape, en tous les cas dans la méthodologie canonique. La critique externe, c'est tous les aspects matériels du document. Hein, mais ça peut marcher pour un site web, hein, c'est-à-dire qui l'a écrit, sur quel support, avec quel élément d'authentification. Hein, et donc, pour l'époque médiévale, ça voulait dire c'est du parchemin, c'est du papier, c'est quelle écriture, est-ce qu'on peut travailler sur l'écriture, est-ce qu'il y a des sceaux, est-ce qu'il n'y a pas de sceaux, hein, donc c'était donc tous les aspects matériels formels, hein, est-ce que c'est signé, etc. Donc c'est ce qu'on appelait la critique externe. Mais ça, on peut faire une critique externe d'un site web, hein, quels sont les éléments d'authentification, qui le tient, etc. Et ensuite, donc, une fois qu'on avait fait tous ces éléments-là, il y a évidemment beaucoup plus de raffinement méthodologique, on passait à la critique interne, hein, qui était évidemment l'analyse du contenu et de la logique interne du contenu. Mais comme très, très souvent, c'est encore une méthodologie qui est bonne, puisque souvent les gens passent tout de suite à la critique interne sans avoir fait la critique externe, et donc du coup, hein, évidemment, on perd le contenu si ça tient, mais en réalité, tous les instruments de validation antérieurs. Donc du coup, oui, la distance de l'historien, en tous les cas, il a méthodologiquement, il peut s'en servir pour le présent. Hein, c'est ça. C'est d'ailleurs, je dirais, sa marque de fabrique, c'est la mise à distance, d'une certaine manière. Hein, et donc la mise à distance du temps, il peut la faire aussi. Hein, alors, d'une certaine manière, la version bête de ce que je vous dis, c'est de dire l'histoire, ça sert à lire intelligemment le journal. Hein, c'est ça, c'est le truc qu'on peut vendre aux étudiants de première année. Hein, si vous faites de l'histoire, vous lirez intelligemment. Et la version un peu plus critique, c'est de dire que même cette méthodologie-là, aussi vieillie qu'elle puisse paraître, finalement, c'est quand même un garde-fou contre ce que vous décriviez, parce qu'elle fonctionne finalement très bien. Et d'une certaine manière, quand on relit certains des manuels de méthodologie du XIXe siècle, hein, on s'en est beaucoup moqué, hein, parce que ce côté positiviste que je vous disais, cette croyance en la vérité, en l'idée qu'on allait tout maîtriser quand on est un historien, ben finalement, face à ce genre de prolifération des discours, c'est un outil de résistance en réalité, on se rend compte. Hein, et du coup, ça fonctionne finalement pas si mal, justement, hein, par rapport à ce que vous décriviez. Alors évidemment, il faut l'adapter, il ne s'agit pas de décalquer, hein, mais cette forme quand même de rapport à la critique, hein, ce que disaient ces pères fondateurs de la discipline et qui me paraît encore quelque chose de très fort, ils partaient de ce postulat, ils disaient la critique n'est pas naturelle, hein, donc n'est pas naturel à l'homme, donc il n'y a pas de raison. Donc si on vous dit que le 11 septembre, en fait, c'est les Juifs qui l'ont fait, ben, la tendance des gens, ça va être de le croire, hein, parce que l'esprit critique n'est pas fondamental. Et donc du coup, l'idée, et ça justifiait l'histoire, parce que justement l'histoire enseignait la critique. Hein, donc elle allait contre nature, en quelque sorte. Hein, elle a été contre-intuitive, l'histoire. Et donc, du coup, elle l'obligeait à un effort. Aussi. Parce que ce qui est contre-intuitif, évidemment, demande plus d'engagement. Et donc, cette défense, finalement, de la critique comme quelque chose de contre-intuitif me paraît encore très fort, finalement, aujourd'hui. Et j'ai relu, c'est un manuel de 1898. Hein, ça s'appelle « Introduction aux études historiques ». Ben, je pense qu'encore une fois, pour vous répondre, quand vous lisez leur définition de la critique externe, la critique interne, c'est beaucoup plus raffiné. Hein, on s'est moqué d'eux en disant bah oui, c'est les vieux barbus de la Troisième République, etc. Mais en réalité, par rapport à ce que je vous disais, et donc en partant de ce postulat-là, hein, vous arrivez avec cette méthodologie-là à résister en réalité à la profusion du discours, et notamment des discours les plus qui paraissent les plus évidents, les plus simples. Hein, et justement, en étant contre-intuitif grâce à cette méthodologie, à mon avis, c'est un outil de résistance en réalité.
On va peut-être passer aux questions de la salle.
Je ne sais pas si le film va
aller jusque-là. Oui, bonsoir, merci pour cette exposé très clair. J'allais m'aider. Dans les classes de lycée, je crois que c'était terminale, mais c'était au lycée, la seule fois où j'ai rendu une copie blanche, c'était sur la question « L'histoire a-t-elle un sens ?» J'ai lu, je me suis tellement perdu que j'ai finalement... du copie blanche, comme je vous dis. Maintenant, vous allez m'aider à faire cette copie. Si vous
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, d'autres questions. Bah, je peux peut-être parler sans micro, on n'est pas très nombreux. Moi, bref, je voudrais faire deux parallèles, un parallèle histoire et psychanalyse et histoire et sciences dures, et que vous réagissiez à ce parallèle. Le parallèle histoire et psychanalyse, ce serait, en parlant du texte de Lacan, là, dans... une intervention au premier congrès mondial de psychiatrie, il disait « La vérité est un mouvement du discours qui peut valablement... » ça par rapport à la psychanalyse. « La vérité est un mouvement de discours qui peut valablement éclairer la confusion d'un passé qu'elle élève à la dignité de l'histoire, sans en épuiser l'impossible réalité. » Est-ce que ce n'est pas la même chose dans le cursus historique? Ce qu'il reprend 15 ans plus tard sous une autre forme en disant qu'il faut renoncer dans la psychanalyse à ce qu'à chaque vérité réponde son savoir. Est-ce qu'il faut renoncer à ce que dans l'histoire, à chaque vérité réponde son savoir? Parce que la question du savoir, je trouve que c'est le deuxième grand thème, peut-être un petit peu absent cette soirée de la question. Ça, c'est par rapport au parallèle que je veux faire à l'histoire, parce qu'il y a un autre parallèle, histoire et science dure. Dans le fond, dans les est-ce que ce n'est pas les mêmes contradictions qu'on retrouve dans les sciences dures? Moi, j'ai appris au lycée aussi, que grâce aux hypothèses posées par la relativité, etc., on arrivait à ce qu'il y avait trois, et c'était démontré scientifiquement par des épreuves et des expériences, il y avait trois particules, électrons, protons, neutrons, insécables. Maintenant, nous en sommes avec d'autres hypothèses, avec une quantique et des expériences menées avant, à une dizaine de particules, et on vient d'en découvrir une qui n'est pas prévue dans la théorie, en plus. Hein. Idem pour le Big Bang. Le Big Bang est l'origine du monde. Il y a des appareils immenses qui ont été créés pour le démontrer, et en fin de compte, une autre vérité se fait jour avec la théorie des cordes, et le fait qu'avant l'univers, il y avait autre chose, il y avait quelque chose. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas comme ça un parallèle à faire avec l'histoire, que le réel est impossible de dire quelque chose. Voilà.
Merci. C'est des... peut-être je réponds, ça fait oui. Beaucoup, non? Sinon, je vais... C'est des grosses questions. Alors, peut-être dans l'ordre... Alors, l'histoire a-t-elle un sens? C'est un beau sujet, je pense que je n'aurais pas une mauvaise note. Parce que, non, la première chose, c'est il y a deux questions en réalité que vous posez. La question peut-être la moins intéressante, c'est est-ce qu'il y a un sens de l'histoire au sens où est-ce que l'histoire irait dans une direction donnée? Hein, ça, c'est la première question, mais peut-être c'est pas la plus intéressante. Hein. Est-ce qu'il y aurait une forme de téléologie au sens où... voilà, bon, donc là on pourrait disserter, est-ce qu'il y aurait, qui serait soit l'histoire du progrès, soit voilà, une vision évidemment théologique cette fois de l'histoire. Donc ça, c'est l'histoire a-t-elle un sens ? Je pense d'ailleurs qu'on répondrait différemment aujourd'hui d'il y a quelques années. Autrement dit, je pense que plus personne n'aurait une vision très téléologique de l'histoire qui irait vers quelque chose d'attendu un peu dans une perspective artistique. L'autre question peut-être qui est plus intéressante, ou différemment, mais l'autre question c'est finalement qu'on peut poser, c'est est-ce que ça a un sens de faire de l'histoire ? Autrement dit, et là ça on peut se retrouver, c'est-à-dire c'est d'ailleurs des questions que vous m'aviez aussi posées finalement, que c'est la place du passé dans le présent. L'histoire a-t-elle un sens, autrement dit, à quoi ça sert de faire de l'histoire ? Alors, ça peut être décomposé en deux points, encore une fois, un plus intéressant que l'autre à mon sens. Est-ce que, en gros, il y a une vision traditionnelle qui est de dire, ben oui, faire de l'histoire, ça évite de refaire les erreurs du passé, ce serait une autre interprétation. L'histoire a un sens, en sens où, oui, ben oui, faire de l'histoire, c'est se connaître nous-mêmes pour mieux avancer. Donc il y a tout un ensemble de discours qui sont hein, l'idée de, si on ne connaît pas son passé, on ne connaîtra pas son présent et on maîtrisera moins son futur. C'est, à mon avis, pas le plus intéressant parce que moi, je suis convaincu du contraire. Je pense que l'histoire ne sert strictement à rien pour la compréhension du présent. Donc de ce point de vue-là, je vous répondrai franchement, hein, je le dis sincèrement, je pense que ça ne sert absolument à rien de connaître l'histoire des guerres pour comprendre les guerres contemporaines, mais vraiment à rien du tout. Et c'est Desmond Tutu qui disait « La seule leçon de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de leçon de l'histoire. » Donc la question, pour moi, est assez vite tranchée. Hein, et cette idée de dire que vous allez mieux comprendre votre présent directement en étudiant le passé, par contre, évidemment, on ne peut pas se débarrasser de la question si simplement. Maintenant, j'en suis très convaincu de ce que je vous dis. Par contre, là où je pense évidemment que c'est intéressant, je ne pense pas du tout qu'il y ait ce lien direct, au sens où si vous avez compris tel aspect, si vous savez comment on gouvernait hein, à l'époque d'Alexandre, vous gouvernerez un empire mieux que si vous ne le saviez pas. En revanche, je pense qu'il y a quand même deux éléments. Un qui rejoint ce que tu dis, c'est que je pense que le sens critique, hein, la discipline historique, ça apprend le sens critique, peut-être comme peu d'autres, pour les raisons que je vous ai dites historiquement. Et donc là, l'histoire a un sens, au sens où elle produit hein, une capacité critique qui, je crois, est dans les sociétés absolument décisive. Hein, et la discipline, par sa constitution, par son rapport au texte, par ses exigences éthiques, elle produit ce sens-là. Hein, et donc, normalement, l'historien, hein, d'une certaine manière, hein, c'est l'essence de la critique. Dans le sens, et donc, en ce sens, oui, l'histoire a un sens, parce que c'est celle qui peut vous donner une distance au présent. Non pas une distance qui vous permet de mieux le comprendre, mais vous-même de vous mettre à côté pour voir un petit peu ce qui est en train de se jouer. Et ça, vous avez forcément... Il n'y a pas tellement de lieux, on ne peut pas se mettre à côté si facilement. Et donc, ce lieu, c'est le passé. Mais un passé, appréhendé de manière critique. Donc, dans ce sens-là, oui, elle a un sens. Elle a un sens parce qu'elle vous permet d'avoir une distance critique au présent, qui n'est pas le lien direct entre une période ou un domaine et un autre, hein, mais qui vous permet de vous déplacer. Hein. Elle vous donne une altérité au présent. Et ça, et donc, plus vous avez cette capacité critique, évidemment, plus vous avez un rapport fort au présent, et donc une densité qui vous permet de vous situer. Donc cette production de la critique, là, c'est un sens, à mon avis, très fort. Et que la discipline historique bien comprise, à mon avis, donne comme peu d'autres. Hein, et d'ailleurs, ça peut même avoir des conséquences politiques. On peut même en faire une interprétation politique. Hein, et donc on pourrait dire que d'une certaine manière, l'histoire est forcément progressiste ou révolutionnaire parce qu'elle vous apprend qu'il n'y a pas de régime qui tient éternellement. Hein, et donc que forcément, hein, les temps changent. Et que si les temps changent, ils peuvent changer encore. Et donc, d'une certaine manière, on peut avoir une interprétation politique. Hein, que la discipline historique, hein, par la distance même qu'elle vous fait au présent, elle est potentiellement toujours critique, non seulement dans le sens critique, au sens simplement où elle vous produit dans une distance au présent, et encore une fois, il n'y a pas tellement de lieu, hein, on peut le faire, et aussi critique dans le sens où, hein, vous apprenant que même les discours les plus fermes hein, sur les pouvoirs éternels hein, ne tiennent pas. Hein, donc forcément, elle vous apprend hein, que le monde change, et donc il peut encore changer. Hein, comme cette vidéo que je regarde toujours avec beaucoup de bonheur de Eric Honecker en 1989, hein, qui disait...
C'est la seule loi, le changement, ou est-ce qu'il y a des lois plus positives ?
Dans quel sens ?
Une science produit des lois.
Ben, la question, c'est est-ce qu'il faut définir l'histoire comme une science ? C'est pas obligatoire. Ça peut être un procédé de connaissance. Parce qu'effectivement, si vous la définissez comme une science, on attendrait des lois. Or, y a-t-il des lois de l'histoire ? C'est ce que je vous disais, j'en suis pas du tout convaincu, je suis même convaincu du contraire. Et donc, à partir de là, j'ai pas besoin, enfin, qu'on la définisse comme une science. Si on la définit comme un procédé de connaissance vérifié ou vérifiable, ça me suffit. Hein. Par contre, en ce sens, posséder de connaissances avec les effets sur la critique que je vous disais. Donc là, ça a vraiment un double sens. Hein. C'est un élément, évidemment. Et puis l'autre, c'est lié, peut-être aussi, elle a un sens aussi, où l'épaisseur du passé, cette fois-ci je le prends comme tel, hein, pas uniquement comme une méthodologie ou comme un rapport au présent, je pense que connaître l'épaisseur du passé, malgré tout, hein, donne une analyse du présent qui est aussi plus épaisse. Alors comment, par quel chemin, je pense que c'est très différent selon les thèmes, mais on peut pas imaginer, mais vous voyez, je parle d'épaisseur du passé, je ne parle pas de lien direct entre tel thème. Hein. L'idée que les choses s'inscrivent dans le temps et qu'il y a une épaisseur, qui peut prendre encore une fois différentes formes, ça vous donne un rapport au présent qui est plus dense, qui est plus distant, qui est plus intense, qui vous permet de voir des choses aussi avec différents, mais ça demande sans doute une circulation plus souple que le seul lien direct. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de sens assez positif, là, hein, dans l'inscription du présent. Là, je ne parle même pas du plaisir de la connaissance historienne. Hein. Donc, ça fait, donc oui, elle a un sens pour toutes ces raisons-là, pour la distance, pour l'altérité, pour le rapport au changement, pour votre rapport au présent, hein, pour situer les choses dans leur épaisseur, non pas dans leur reproduction. Et ça, j'y insiste, c'est pour ça que j'emploie ce terme d'épaisseur. Il ne s'agit pas de situer, quand je dis épaisseur, ce n'est pas l'idée de la reproduction ou d'éléments qui seraient dans le passé et qu'on pourrait retrouver dans le présent. Parce que ça, j'y crois pas et en pensant ça, je trouve ça intéressant. L'idée qu'il y a une épaisseur dans le rapport au passé, hein, qui est parfois celle des acteurs, des gens eux-mêmes, ce n'est pas seulement la société dans son ensemble, et que mesurer cette épaisseur ou l'utiliser vous-même pour résister au présent, c'est des choses qui donnent à l'histoire, comme discipline académique, et pas forcément comme science, à mon avis, énormément de sens de ce point de vue-là. Voilà. En tous les cas, c'est des suggestions. Alors, sur ce que vous dites, tout ce que vous citez de Lacan, moi, je suis assez d'accord, ça recouvre quand même ce rapport. D'ailleurs, c'est assez normal, puisque d'une certaine manière, il a écrit au moment où les historiens imposaient un peu ce type de questionnement. Il y avait des liens. Hein, donc, d'une certaine manière... Je partagerai volontiers ce que vous dites. On retrouve, je trouve que c'est très en écho. La seule chose que je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris, c'est dans quel sens vous employez le mot savoir. C'était quand vous dites rapport entre vérité et savoir, je me demandais dans quel.
Je pense que là, c'est là quand l'emploi dans le terme d'un savoir produit et qui puisse produire quelque chose. Hein, c'est vraiment. Il y a un effet.
Un effet de connaissance, donc.
Non, c'était une question. Non, là, c'est parce qu'on entre dans la discussion du concept de savoir.
Donc, bon. Alors, je vous laisserai en débattre sur le concept de savoir, mais en tous les cas, sur le reste. Par contre, je peux vous répondre peut-être sur les sciences dures, alors sans rentrer dans les débats sur les vôtres sur le concept du savoir, je pourrais en discuter pour les historiens, mais sûrement pas devant vous, évidemment, en psychanalyse. Mais sur les sciences dures, il y a un élément de différence fondamentale, c'est que les sciences dures, évidemment, peuvent reproduire des expériences que nous, on ne peut pas. Donc c'est pour ça que là aussi, on peut très bien ne pas prétendre au statut de science, après tout. Si on considère que le statut de science tient à la capacité à reproduire des situations pour les tester, que l'historien ne le fasse pas, ne me gêne pas et qu'on n'ait pas du coup ce statut-là. En revanche, là où vous avez raison, c'est la relativité de la vérité, y compris sur des périodes anciennes. Et donc là aussi, c'est pour ça qu'encore une fois, on n'est pas obligé de s'accrocher à cette notion. Vous donniez les exemples des exemples en physique. Moi, je peux vous en donner un en histoire, par exemple, y compris dans l'histoire ancienne, un épisode hyper canonique. Là aussi, je vous ai pris l'exemple du baptême de Clovis, un autre exemple canonique que sans doute beaucoup ont plus ou moins en tête. C'est l'épisode des bourgeois de Calais qui, en 1347, se rendent à Édouard III. Vous savez, ça a été immortalisé par Rodin. Hein, et donc, en fait, l'idée qui était racontée par tout le monde, c'est que ces bourgeois, donc cette ville qui avait résisté à son souverain naturel, puisque Édouard III prétendait être au roi de France, donc cette ville allait être punie, et c'est les quelques bourgeois qui se sont désignés, qui sont sortis de la ville la corde au cou, et qui donc attendaient d'être exécutés par leur souverain, et qui donc courageusement se sont sacrifiés pour les autres. C'est donc le récit que tout le monde a appris à l'école, ou alors en tous les cas, ceux qui ne l'ont pas appris, c'est le récit qui circulait. Et donc, c'est la femme de Édouard III qui était enceinte, Philippa de Hainaut, qui se jette au pied du roi et qui dit « Mais non, vous ne pouvez pas exécuter ces pauvres bourgeois. » Et qui les sauve in extremis. Mais ils avaient la corde au cou et ils n'attendaient qu'à faire ça. Et il y a un historien qui, il y a une dizaine d'années, donc en 2002, vous voyez, ça fait quand même 600, à peu près 600 ans après, a montré qu'en fait, tout ça, c'était une mise en scène et que ces bourgeois n'ont jamais rien risqué. mais que simplement c'était un rituel de soumission qui était très classique quand une ville se rendait. En fait, on circulait toujours avec un objet autour du cou pour montrer qu'on se soumettait au souverain ou qu'on se soumettait à la justice qui vous avait condamné. Par exemple, les prêtres sortaient avec des bibles sur la tête, etc. Et donc la Cordoro ne disait rien d'une exécution. Voilà. Et donc il a fallu 600 ans hein, pour qu'on se rende compte que c'était en fait une mise en scène hein, qui n'avait rien à voir avec... Donc vous voyez, de ce point de vue-là...
On s'est occupé des bourgeois de Calais-Camp pendant des centaines d'années, tout le monde s'en foutait.
Non, parce que...
C'est une invention récente, quand même.
Oui, c'est une invention récente, mais Voltaire, déjà, avait écrit sur les bourgeois de Calais. Donc, il y a quand même toute une tradition historiographique. Pourquoi il y a une tradition historiographique? Il y a une double tradition historiographique des bourgeois de Calais. Je ne vais pas faire... Deux choses, c'est qu'ils avaient un double intérêt, c'est qu'ils permettaient de mettre en scène, à une époque médiévale, évidemment, où ce sont les rois et les princes qui sont au devant de la scène, un héroïsme bourgeois. Et donc, la Troisième République... Évidemment, ça,
c'est la question du sort, c'est ça, oui. Ouais. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que nous avons l'habitude de travailler, c'est une sorte d'efforcement de tout sujet humain au sens. Et s'efforcer désespérément ou pathétiquement, parce que les choses aient un sens. Bon, ce que nous constatons peut-être dans le travail, c'est qu'il y a un hiatus entre le réel et le sens. Effectivement, quand on vous écoute, on voit que les historiens y amènent là la question de la vérité, avec une très grande sophistication et une immense honnêteté intellectuelle que vous avez si bien développée ce soir. On arriverait à choper des bouts de vérité qui cerneraient peut-être quelques éléments de réel, peut-être simplement dans une rue du Pas-de-Calais, mais là, au moins, on accrocherait quelque chose, comme disait Claire tout à l'heure, vous l'a. Ok, mais cette question du sens me semble pas du tout étrangère à ce que vous avez, à l'intérêt que vous portez au livre de Deverre. Parce que ce n'est pas n'importe quoi, Charon, comme sens pour le présent, dont vous parliez. Et à ce titre, ce livre que je ne connais pas est sûrement remarquable, mais il y a effectivement d'autres procédés d'intervention qui ont eu une portée extrêmement grande. Vous parliez des camps nazis. Vraisemblablement, un travail comme celui de Primo Levi a une portée de radicalité, de saisie de quelque chose. Là, me direz-vous, il y a Hilberg. Il a fait un travail immense. Et là, on a quelqu'un qui va du côté du travail modeste de l'historien, répondant au génie du littérateur. Mais prenez par exemple la Russie. Il n'y a pas d'Hilberg pour la Russie. Mais il y a l'archipel du Goulag. Et là, on a une construction fictionnelle historique qui nous dit des choses majeures sur une question qui a un sens déterminant pour l'existence même de la Russie contemporaine en ce qu'elle ne fait pas de travail de mémoire. Donc, vous voyez, je crois que, autant j'ai suivi avec grand intérêt et beaucoup de... J'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant, et sur cette question de la vérité qui nous intéresse beaucoup, autant il me semble que cette question du sens ne se résume pas à ce que vous avez répondu à mon collègue Mastros, sur un sens téléologique de l'histoire d'une part, ou sur le sens qu'il y aurait à faire de l'histoire. Il me semble que là, des éléments de sens constitue en problème un certain nombre de questions historiques pour des contemporains à tel ou tel moment. Voltaire, les bourgeois de Calais, nous, le Goulag ou les camps nazis.
Jeanne d'Arc, chez nous.
Voilà, je ne voulais pas parler longtemps puisqu'il est déjà tard.
Mais je ne me sens pas du tout étranger à ce que vous dites, parce que il y a deux choses, si vous voulez, il y a deux choses. Peut-être différent. Il y a quand même deux niveaux, si vous voulez, dans ce que vous dites. Effectivement, il y a cette volonté de donner du sens, et puis ensuite, quand elle a été attribuée, parce que l'œuvre de Primo Levi ou ceux de Genitsyn, évidemment, c'est, le sens, il est déjà attribué, alors que le sujet qui va le chercher, c'est autre chose. Sur le deuxième point... Non, ce que vous dites, finalement, il y a d'une part la quête de sens, qui, évidemment, est une question fondamentale, y compris sur un objet historique. Et puis il y a celui qui, lorsqu'une œuvre littéraire ou qu'une forme d'expression qui n'est pas historienne, a attribué à un événement. C'est deux choses différentes, si je vous ai suivi.
Et donc, c'est-à-dire qu'il restitue l'événement.
Oui, mais la force d'une écriture... Moi, je ne vois pas du tout ça, si vous voulez, ni comme une concurrence, ni comme un registre finalement très différent. Parce que, pourquoi ? Parce que pour nous, d'une certaine manière, j'accepte tout à fait l'idée que, si vous voulez, que des œuvres de fiction ou des récits qui ne soient pas historiens, hein, puissent avoir une capacité à produire du sens qui soit même supérieure dans le registre, après tout, pourquoi pas ? Hein, donc ça me paraît tout à fait entendable, y compris pour un historien. Donc effectivement... Hein, on sait très bien qu'il y a des choses qui arrachent, hein, qui arrivent à arracher une période, à lui donner une force, etc. Hein. Et c'est le cas souvent, évidemment, pour les périodes les plus dramatiques. Hein. Et combien de films aussi ont pu restituer peut-être quelque chose que les historiens n'ont pas pu faire. Donc ça ne me pose pas la question. Il y a peut-être une différence quand même avec cette idée de prendre ça, disons, comme vous le formulez. C'est que pour nous, c'est aussi des objets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en tenir à cette idée qu'ils ont produit du sens. On va aussi travailler. C'est pour nous aussi des sources et des objets de travail.
Je n'ai pas dit qu'ils avaient produit du sens. J'ai dit qu'à partir d'une recherche du sens, de cette manière, ils ont accroché à un tout de réel.
Oui, mais ça me paraît tout à fait. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, moi, je ne vois pas d'opposition, si vous voulez. Je ne vois pas d'opposition. C'est-à-dire. Et ce bout de réel, d'ailleurs, on va pouvoir bâtir avec lui des distances très différentes. Mais l'avantage qu'on a peut-être par certains moments, c'est qu'on pourra aussi démonter ceux qui ont donné l'impression de l'avoir fait et qui, en fait, n'en étaient pas. Parce qu'évidemment, avec Primo Levi, ça ne pose pas de question. Mais vous savez aussi qu'il y a un certain nombre d'œuvres de fiction hein, qui ont prétendu arracher un bout de réel que les historiens ne voyaient pas et qui, en fait, n'arrachaient rien du tout. Et donc, il ne faut pas se laisser prendre non plus à la force du témoignage ou à la force de l'écriture, qui parfois fait semblant, justement, au nom de cette force de produire un sens supérieur, ou d'arracher un bout de réel, comme vous dites, et qui finalement, hein, on l'a vu, il y a des faux témoins, il y a des mauvais témoins, il y a des menteurs, qui peuvent être d'excellents littérateurs, qui peuvent nous donner l'impression. Et donc, on a quand même, donc si vous voulez, on a toujours ce rapport-là. Et puis, ça, c'est le premier élément. Hein. Donc, évidemment, si vous citez Primo Levi, le problème ne se pose pas. Mais on pourra, peu importe, on ne va pas en faire la liste, il y a les faux témoins. Hein, qui donne l'impression d'arracher du réel, hein, on le voit en permanence, hein, tous ceux qui prétendent dire la vérité historique hein, ne le sont pas, même quand ils ont beaucoup de talent. Et donc là, on a peut-être un petit rôle qui est modeste, vous l'avez dit à juste titre, c'est un terme que j'aime bien, hein, qui nous permet de nous répondre. Et tout dans Solzhenitsyn n'arrache pas non plus du réel. Il y a une part qui en lui est aussi un engagement très politique, très contemporain, pas l'archipel du Goulag, mais d'autres aspects de son œuvre, et l'historien est peut-être là pour le mettre en situation. Mais en même temps, moi je suis très sensible, si vous voulez, l'idée de dire que c'est aussi deux formes de récits. C'est là où on l'a accepté, comme c'est des narrations qui sont non pas concurrentes mais parallèles. Je pense que d'une certaine manière, pour prendre une autre période qui me connaît bien, les nombreux de récits de la Grande Guerre de 14-18 qui sont produits par des gens qui ont vécu les tranchées ont un régime de vérité qui est tout à fait équivalent au nôtre, qui n'est pas le même, mais qui n'a pas une valeur ou ni supérieure ni impérieure, qui produit non pas seulement du sens, mais aussi un régime de vérité qui n'est pas en opposition. Donc je ne vois pas ça, si vous voulez, comme des voies contradictoires, et que c'est une manière d'arracher du réel qui me paraît aussi ni plus ni moins valable que celle de l'historien, avec l'idée que l'historien...
Mais c'était en partant de la question du sens.
Oui, j'ai bien compris, c'est, mais je vous réponds...
À cause d'événements... qui font sens pour notre présent, qu'un certain nombre d'autres récits se développent. C'est ça la question du sens prise d'une autre façon dans l'histoire.
Oui, qui font sens pour notre présent.
Oui.
Bien sûr, ça c'est encore, ce sera encore un autre élément dans la dissertation qu'il faudra que vous fassiez maintenant, avec tous les éléments. Mais oui, mais alors juste peut-être un élément aussi. Juste un tout petit élément là-dessus, parce que la question, c'est finalement, quand un événement fait trop sens pour notre présent, est-ce que c'est encore de l'histoire ? Hein ? J'ai pas dit que ça voulait dire qu'il fallait s'en débarrasser. Mais je dis, est-ce que c'est encore de l'histoire ?
La question de la politique, c'est
voilà.
Temps.
Voilà. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on rentre au présent un événement, est-ce qu'on lui garde son caractère passé? Si justement il fait trop, s'il produit trop de sang, et moi j'ai souvent, on a souvent tendance comme historien à se méfier justement de ce qui devient trop chargé de sens au contemporain, même si parfois ce sens est très lourd, hein, vous avez, avec les exemples que vous avez, parce que du coup, la part d'historicité qui reste à cet événement est extrêmement variable et parfois s'affaiblit. Hein, et donc si ça fait trop sens pour notre présent, est-ce que c'est encore, ça nous permet encore de mesurer l'épaisseur du temps? Et cette épaisseur qui nous sert autrement, comme je vous ai répondu, pour se mettre à distance du présent. C'est peut-être juste la différence de perception, encore une fois, que je ne vois pas comme une opposition, mais là, je vois quand même peut-être une différence.
Bon, est-ce que vous acceptez encore une question? Habituellement, on termine à 11h, mais là, vraiment, c'est très intéressant.
Oui, bien sûr.
Il y a deux questions. Il y avait d'abord...
Non, c'est... En fait, ma question n'a pas d'objet, puisque il faudrait peut-être l'avoir posé au début de cette soirée pour que ça puisse avoir le développement nécessaire. Je voulais faire une sorte d'écho à la soirée où nous avons déjà invité un historien cette année dans ce cycle sur l'historisation. C'était donc, on l'a rappelé tout à l'heure, Alain Corbin. Et j'imagine qu'on aurait pu avoir un débat un peu sur des questions qui sont fondamentales, mais tard, nous ne l'aurons pas. Néanmoins, je voulais quand même juste dire que, puisque j'étais à la place d'une de mes deux collègues pour animer cette soirée, j'avais été tout à fait sensible au travail, disons, à l'aspect manifeste du monde retrouvé de Louis-François Pinacon. C'est-à-dire une sorte de défi, de modestie ou de fausse modestie, je ne sais pas, mais enfin, qui est quand même, non pas à l'aboutissement, mais vers la fin d'une œuvre. D'un œuvre absolument considérable et qui pousse le bouchon, si je puis dire, au plus profond de la question, de la forêt, de la carte et du territoire, avec cette espèce de point d'interrogation qui est celui qui devrait être l'objet, en termes d'objectivité, de cet ouvrage. Pas important. Simplement, j'ajoute autre chose. Avant de vous tard, c'est que Gérard Noriel, que vous avez cité, nous l'avons déjà invité à l'occasion de Journée nationale sur l'identité en psychanalyse, au propos de l'identité et de la migration.
C'était juste pour dire que sur la question de l'écart, de l'épaisseur, c'est vraiment quelque chose qui nous est. L'épaisseur de l'histoire et disons la coupure que vous avez évoquée entre les événements passés, hein, et ce qui se présente aujourd'hui. Évidemment, c'est quelque chose à quoi on a affaire tout le temps, et notamment par rapport aux simplifications abusives, causales, des effets de quelque chose qui est passé, et que donc... Voilà. Alors, c'est pour ça que j'appréciais beaucoup que la chose soit formulée à propos de l'histoire aussi.
Voilà. Juste peut-être deux mots pour vos parts, sauf si... Oui, sur Pinacon, c'est intéressant parce qu'en réalité, ça rejoint la question du sens. Hein, parce que là aussi, on parlait vous disiez quel sens ça a à faire de l'histoire, etc. Bon, il se trouve, j'ai fait plus modestement. Moi, j'ai écrit un livre, j'ai essayé de reconstituer la vie modeste d'un valet de ville au XVe siècle, avec beaucoup moins de documents que Corbin. Hein, et donc, qui était un crieur public dans une ville du Moyen-Âge. Voilà, donc, c'est une méthode qui m'est proche aussi. Et d'ailleurs, j'ai discuté un petit peu le livre de Corbin en introduction. Et pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour citer ce livre, peu importe, mais c'est parce que du coup, ça pose la question du sens aussi qu'on peut avoir, et c'est là une forme de responsabilité d'historien, on n'en a pas parlé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Et donc là, il y a une vraie question du sens, par exemple. Est-ce que on sauve quelqu'un de l'anonymat, et est-ce qu'il faut le faire? Et Corbin dit à un moment, Pinacon m'a rien demandé. Hein, je le formule comme ça à peu près, Mais du coup, ça nous oblige aussi, il y a une forme de responsabilité dans l'objet. On n'a pas utilisé ce mot, on n'en a pas discuté, mais c'est ça la question que ça pose. C'est-à-dire, qui autorise Alain Corbin à aller chercher Pinago dans son... qui ne lui a rien demandé, et d'en faire un objet qu'on arrive à parler aujourd'hui à Paris, au XXIe siècle, comme s'il était connu de tout le monde. Donc, et quand moi je l'ai fait avec un crieur public de l'an, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec un personnage du XVe siècle? Vous êtes dans une forme d'abysse assez compliquée à gérer. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, ça pose une vraie question de responsabilité, et donc peut-être aussi la production du sens à faire renaître des formes du passé qui peut-être auraient eu un rapport différent. Sur la question, je traduis un peu par rapport à, ou en tous les cas en cherchant un terreau commun, ce travail finalement que vous décrivez, c'est la question de travailler la distance. Et c'est là où la méthode historique est assez intéressante, c'est qu'elle a quand même un certain nombre d'éléments justement pour bâtir la distance au temps. Et on a une capacité à donner, et c'est là où on se retrouve effectivement, à travailler cette élasticité pour que le lien entre les temps ne soit pas toujours le même et figé comme vous le décrivez. Et ça, ce travail de la distance, ça, je crois qu'effectivement, c'est un point intéressant et commun.
Donc vous êtes invité au pot habituel.
Bon, d'abord.
Voilà. Je vais vous poser une question.
Oui.
Quelle utilisation vous faites de faire la théologie, notamment pour le travail